Bonjour et bienvenue dans Stellar, le podcast énergie qui décrypte les mystères de la vie à travers l'astrologie, la spiritualité et les énergies. Comme une parfaite combinaison, nous formons à nous tous, êtres humains, un certain équilibre. Quelle est la bonne recette pour faire de notre monde une terre peuplée, pas de gentils ou de méchants, mais de courageux, d'épicuriens, de curieux, de sensibles, de généreux, de pragmatiques, de pacifistes, d'aventuriers? Une terre peuplée de philosophes, de bâtisseurs, de génies et de créatifs. Quelle est cette bonne recette déjà? Je crois qu'il faut y ajouter un peu de chacun de nous. Bienvenue à vous qui nous rejoignez dans Stellar. Ravie de vous retrouver pour cet épisode emblématique de Stellar. Je suis Jenny, aux commandes de notre navette spatiale qui nous emmène loin maintenant dans les étoiles. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'astrologie il y a de ça 2 ans, je me retrouvais à des dîners et on se tirait le portrait de nos signes solaires. C'est comme ça que j'ai commencé à aimer l'astro. On pouvait se moquer les uns des autres, détester certaines parties de nous sans s'en vouloir et s'aimer encore plus après parce qu'on avait ri. Je suis en studio avec Chloé Z, astrologue. En plus de maîtriser l'art de lire les astres, elle manie le verbe comme personne. Si vous avez écouté et que vous n'avez rien lâché de nos épisodes précédents, vous avez alors compris que notre plus grande quête dans la vie, c'est de devenir soi. Et en astrologie, devenir soi, c'est devenir son soleil, de l'incarner, de se révéler en lui. Votre signe solaire, c'est le taureau si vous êtes né le 2 mai, la balance si vous êtes né le 8 octobre. Souvenez-vous, on est avec la personnalité de notre ascendant et on devient peu à peu notre soleil. Alors c'est normal, en fonction de l'âge que vous avez, de votre vécu et la prise de conscience que vous avez de votre chemin de vie et de qui vous êtes, que vous ne vous reconnaissiez peut-être pas encore dans votre signe solaire. Il faut d'abord apprendre à se connaître en long, en large et en travers. Et ça, c'est le rôle des autres planètes, comme la Lune, Mercure, Vénus, Mars, etc. Puis vient ce jour où vous vous retrouvez dans les caractéristiques de votre signe solaire.
D'ailleurs, là, les archétypes qu'on va voir, justement, de ces signes, ça peut correspondre, par exemple, à un ascendant. La personne peut se reconnaître. Par exemple, si elle a un ascendant bélier, elle va se reconnaître dans l'archétype du bélier. Elle peut se reconnaître aussi si elle a le soleil en bélier. Et si jamais elle a Mars, la planète du bélier, dans la maison 1, peu importe le signe de son ascendant, elle peut se reconnaître également.
Donc on va parler, comme tu dis, de l'archétype, de l'énergie du signe associé au signe solaire, à l'ascendant et à la planète en question. Par exemple, bélier ou scorpion, c'est la planète Mars. Et quand elle est en maison 1, la maison 1, c'est vous. Et donc, vous allez retrouver cette énergie en vous. Donc soyez attentifs du début à la fin et n'écoutez pas que votre signe, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont vous parler.
D'où la complexité de l'individu.
C'est
parce qu'on a plusieurs archétypes présents en nous. On n'est pas coloré que d'une seule facette. On en a plusieurs facettes.
Alors Chloé, dans cet épisode emblématique, tu vas nous faire rire ou pleurer, dépendant de notre susceptibilité. Mais avant ça, j'ai une question. Ça me fait penser au film Divergente. Est-ce que notre monde est comme divisé en 12 factions, les 12 signes du zodiaque?
Oui, on peut dire ça en fait. Parce que les 12 signes du zodiaque, ça repose, comme on l'a dit, sur 12 archétypes de personnalité qui vont donner une essence, une trame. C'est un peu, si tu veux, comme un squelette de caractère ou de personnalité. C'est une base commune. Et on va justement pouvoir relever les similitudes entre 2 béliers, par exemple, ou bien différencier un bélier d'un taureau.
Donc, si on était dans Divergente, est-ce que bélier irait dans la faction des audacieux?
Bah oui, Mars, forcément.
Ok, alors pourquoi, selon toi, il faut de tout pour faire un monde?
Eh bien, tout simplement parce que personne n'est parfait, même la Lune en Vierge.
On a toutes les deux la Lune en Vierge, pour info.
Comme la nature est bien faite, le zodiaque, il est constitué sous forme d'axes, si tu veux, avec des signes opposés qui se font face. Et donc, ils se retrouvent dans une complémentarité de personnalité. Donc, les qualités des uns vont venir compenser les défauts ou failles des autres et vont nous amener à nous remettre en question, à rechercher un équilibre. Bon, c'est vrai, ça fait un peu balance ce que je dis, mais bon. À nous ouvrir à la différence ou bien même à sublimer nos défauts. Car si tout le monde se ressent, ça risque de devenir sacrément ennuyeux, quoi.
C'est ça, si avec une faction, on serait des milliards de relous dans une même pièce.
Des moutons surtout, ouais. Et d'ailleurs, c'est la différence qui fait la richesse du monde. Et si on prend un exemple, pour te prendre l'exemple de l'axe bélier-balance, le bélier, il prône la personnalisation. Le moi, l'estime de soi, il est peu enclin aux concessions et il a un besoin de s'individualiser, donc d'agir seul. Pour lui, le danger, c'est de passer pour un égocentrique. Alors que la balance, elle, elle prône la dépersonnalisation. L'estime des autres d'abord, elle agit pour eux, avec eux, dans un consensus, parce qu'elle a besoin de partager, elle a besoin de coopérer. Mais du coup, elle, bah, le danger, c'est de un peu trop se fondre dans les autres et de devenir hyper lisse.
Donc, quand tu dis l'axe bélier-balance, c'est-à-dire que la balance se trouve à l'opposé du bélier et que les qualités, enfin les énergies de la balance, elles viennent compléter celles du bélier pour former une combinaison presque parfaite.
Ben, en fait, quand tu as une maison 1, par exemple, en bélier, ta maison 7, elle est en balance.
Ouais.
Et donc, ta personnalité, tu la développes sur un mode bélier. Mais si tu veux justement ne pas avoir les torts et les travers du bélier, tu dois développer l'énergie en face de la maison 7, parce que justement, tu vas te confronter aux autres et les autres vont t'apprendre à trouver un juste milieu au niveau de ton énergie.
Ok, très cool.
Et donc, du coup, tu vois, c'est trouver l'équilibre entre les désirs, qui sont symbolisés par Mars, et les sentiments, l'affect, qui sont symbolisés par Vénus.
Vénus qui est la planète de la balance.
Exactement.
Tu m'as toujours dit que la construction des signes du zodiaque était faite selon un ordre nullement laissé au hasard. Le signe qui suit garde toujours quelque chose de celui qu'il précède et ainsi de suite. Par exemple, le taureau qui suit le bélier, le gémeau qui suit le taureau, etc. Est-ce que tu peux nous donner un exemple et quel est le but selon toi ? Est-ce que tu peux nous rappeler quels sont les quatre éléments ?
Donc, on a les signes de feu, qui sont bélier, lion et sagittaire. On a les signes de terre, qui sont taureau, vierge et capricorne. On a les signes d'air, qui sont gémeaux, balance et verseau. Et on a les signes d'eau, qui sont cancer, scorpion et poisson. Et en fait, ils ont des caractéristiques qui leur sont propres. Et donc, les signes de feu, ça stimule la volonté. Ils sont associés à l'émotion de la colère. Et donc, en fait, le bélier, bah, c'est l'initiation par la volonté. Les signes de terre, eux, ils stimulent la matérialisation et ils sont associés à l'émotion de la tristesse. Et donc, le taureau, c'est l'initiation par la matérialisation. Quant aux signes d'air, bah, eux, ils stimulent la pensée et ils sont associés à l'émotion de la joie ou bien de l'excitation, en fait. Mmh. Et donc, le gémeau, bah, c'est l'initiation par la pensée. Quant aux signes d'eau, bah, c'est plus un processus de reliance. En fait, ils ont besoin de se relier aux autres et ils sont associés à l'émotion de la peur. Et donc, pour le cancer, bah, ça veut dire que c'est l'initiation de se relier aux autres. Et donc, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport à l'ordre...
Oui, les signes qui se suivent.
Bah, le bélier, lui, souhaite exister en tant que premier signe, parce que c'est le tout premier. Du coup, il faut comprendre qu'il n'a pas de passif. C'est un peu comme aux US, on dit, il n'a pas de credit history. Et donc, en fait, ça lui donne une insécurité parce qu'il n'a pas de filet. Et donc, cette insécurité qu'il a, bah, il la transforme en défi de devenir quelqu'un, car il a tout à bâtir. Et donc, c'est là que commence le cycle. Donc, c'est lui qui donne l'impulsion. Puis après, t'as le signe du taureau qui arrive. Bah, lui, il se dit qu'en plus d'être quelqu'un, bah, lui, il veut acquérir et profiter. Et puis ensuite, t'as le gémeau qui, lui, souhaite communiquer ce qu'il a acquis en termes d'idées, puisqu'on est dans la pensée. Et justement, il voudrait les échanger. Et puis ensuite, t'as le cancer qui souhaite justement protéger ses idées, en faire quelque chose de créatif, et les ancrer au sein de son cercle, sa famille et sa communauté.
Donc, chaque signe reprend quelque chose de l'autre.
Exactement. Si tu veux, ils construisent après que l'autre, il ait bâti quelque chose. Et c'est pour ça qu'il y a un lien donc, entre les 12 signes, tout comme il y a un lien entre les 12 maisons, puisqu'on va pouvoir faire justement l'analogie des maisons par rapport aux signes.
Donc, effectivement, ce que tu dis, c'est que tout est lié, qu'aucun ordre n'est laissé au hasard. Et vous allez voir que dans les 12 signes du zodiaque, les éléments se suivent. C'est qu'après le feu vient la terre, après la terre vient l'air, après l'air vient l'eau. Et en fait, c'est comme ça qu'on se construit. Et c'est comme les maisons astrologiques qui représentent les secteurs de notre vie. C'est un peu le cycle de la vie. Bref, voilà, il y a un ordre. Alors, je vous ai dit que Chloé maniait le verbe comme personne. Et c'est grâce à la justesse de ses mots, son humour, son art subtil de vous laisser à penser et sa tendresse que j'ai appris l'autodérision, l'amour de soi et l'envie de devenir meilleur. Ça sert à ça l'astro. Alors on on va commencer par le premier signe du zodiaque et on pourrait penser que le calendrier du zodiaque, c'est le même que notre calendrier à nous, qu'il commence en janvier, mais pas du tout. Le premier signe du zodiaque, c'est le bélier.
C'est le pionnier du zodiaque. En fait, il fait référence au premier bourgeon du printemps. C'est un peu, si tu veux, cette période-là, où la lumière du jour devient plus longue que celle de la nuit. Donc, ça marque un petit peu la victoire à l'image du bélier. Et donc, notre bélier, bah, c'est un signe de feu. Et donc, il a cette capacité d'impulser, d'agir, de donner ce fameux top départ. C'est celui qui ouvre le chemin. On le compare souvent à un éternel adolescent, à cause de son innocence et de son insouciance, justement. Si tu veux, c'est l'ado qui a une personnalité en cours de construction. C'est pas un produit fini. Il a aucun sens de qui il est. Il connaît pas ses limites. Et il a peur de rien. Et il a envie de devenir quelqu'un. Et donc, il pense qu'il faut devenir immortel, d'où l'image du super-héros pour le bélier, pour exister. Parce que son but, c'est d'exister.
Je reviens au film Divergente et de cette faction des audacieux. T'as dit que le bélier, il était sans filet, il a peur de rien?
Oui, il est sans filet. En fait, il a une insécurité, mais il se fait violence et il la transforme en défi.
Et quand on le compare à la saison à laquelle il est né, c'est-à-dire le printemps, la naissance des bourgeons et des fleurs et tu parles d'obscurité et de lumière. Il va impulser cette lumière?
En fait, il impulse pas la lumière, mais c'est justement parce que la lumière devient plus longue, en fait, la durée du jour devient plus longue par rapport à la nuit, que justement on compare au fait que le bélier donne cette impulsion en tant que premier signe.
Ok. Donc chaque signe est associé à une planète maîtresse. Alors notre ami bélier, c'est quoi sa planète?
Lui, il vient de Mars. Et donc Mars, c'est la planète du pouvoir d'affirmation et d'influence. C'est pour ça que c'est le passionné, c'est un peu l'Amazon, la fille au masculin. Lui, il a besoin d'action, il a besoin d'être sur le terrain, il a besoin d'agir de façon spontanée, parce qu'il vit dans l'instant. Et d'où ce côté combatif, téméraire, d'où l'image du guerrier d'ailleurs, parce que voilà, il a jamais peur, parce qu'en fait, il a aucune conscience du danger qui pourrait lui arriver. Et du coup, il développe un esprit de compétition et le sens du commandement.
Mais alors, le bélier, il veut tout le temps être en action. Est-ce qu'il a besoin de ça pour exister?
Exactement. Il a l'impression d'exister que dans l'action.
Est-ce que ça ne créerait pas justement, comme on dit, on a toujours le défaut de nos qualités. Est-ce que s'il n'agit pas, il se sent out of...
Il a l'impression de ne pas exister, en fait. Il a l'impression d'être mort, quoi, de ne pas être vivant.
C'est ça.
Mais en fait, son problème majeur... il a tendance à vouloir prendre l'ascendant sur les autres. Parce que justement, il a le sens de la confrontation. Et justement, ça lui permet de découvrir qui il est quand il se confronte aux autres. Parce qu'il veut s'affirmer sur l'autre. Et comme tu vois, il est un petit peu obstiné à vouloir prouver sa capacité, il agit seul. Et donc, il peut passer pour un individualiste ou un égoïste.
Si on devait faire passer un message à un bélier, qu'est-ce que ce serait? Ne te confronte pas, tu n'as pas besoin de ça pour exister?
Si on devrait faire passer un message au bélier, il faudrait lui dire que ça ne sert à rien d'être impatient, d'agir, de s'agiter, de foncer. Parce que du coup, notre ami bélier, il confond vitesse et précipitation.
Ouais.
Parce qu'en fait, il ne construit pas, il n'a pas de plan. Il est dans l'instant, tu vois. Et puis il fonce, donc il peut passer pour un fanatique. Mais à un moment donné, en fait, il faut qu'il comprenne que la véritable capacité d'action, il ne suffit pas d'agir ou de s'agiter, tu vois, ou de faire, comme tu disais.
Ouais.
Ça repose sur l'affirmation de son identité, qu'il est en train de construire, justement. Parce qu'en fait, il a besoin de ressentir ce sentiment d'existence.
Bélier, affirmation de soi.
Et c'est pour ça qu'on l'assimile à la maison 1, l'identité. Parce que la maison 1, c'est notre identité dans notre thème. Tu vois, il croit que c'est dans l'action, juste dans le faire. Mais tu n'existes pas en tant qu'une personne, tu existes parce que tu t'es construit une personnalité.
Alors c'est vrai, j'ai de la chance parce que tu parles du bélier en premier signe et que c'est mon signe. Et pour le coup, c'est ce que je suis en train de traverser cette année. Je me reconnais tellement parce que ça fait des années que je me prouve mon existence en faisant, en ayant tout plein de projets, etc. Et aujourd'hui, je me rends compte que si je ne fais pas, je n'existe pas. Et c'est terrible, je me dis mais quel est mon prochain projet? Et en fait... Et c'est marrant que tu dis ça parce que la semaine dernière, je me suis écrit quelque part sur un papier plutôt que d'avoir plein de petits projets et un grand projet, de devenir toi et de te faire aimer pour ce que tu es et pas pour les actions que tu mets en place. Et finalement, il y a une certaine fierté à réfléchir comme ça parce que tu peux aussi te taire et être là. Alors, j'ai toujours eu ce goût d'entreprendre. Je pense que ça fait partie aussi du signe de Bélier. Voilà, il a envie de se prouver les choses. Mais en fait, j'ai toujours voulu prouver les choses. Mais même pas à moi, aux autres. Je ne sais pas pourquoi. Et on me prenait pour une folle. On me prenait plus au sérieux. Parce que j'avais un projet cette semaine-là, un autre projet le mois d'après. Et je me retrouvais un petit peu là, sans amour, entre guillemets. On me croyait pas. Et c'était hyper bizarre. Et finalement, je me retrouvais seule.
Oui. Parce qu'en fait, en prouvant aux autres, tu te prouves à toi-même.
Exactement. Sauf qu'à un moment, les gens ne te prennent plus au sérieux. Et donc là, ce que j'apprends avec l'âge, c'est qu'il n'y a pas besoin de ça. C'est-à-dire, on peut faire les choses aussi en silence. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Et j'avais tellement d'enthousiasme, et c'est aussi propre au signe du Bélier, mais un enthousiasme débordant parce que je crois en mes projets, etc. Et donc, je parle avant que ce soit fait. Et quand ça se fait pas, je suis déçue et j'ai l'impression d'être une merde, tu vois. Et donc là, c'est ça que je suis en train aussi d'apprendre, c'est à faire les choses en silence et à me prouver simplement à moi-même que je suis sur mon bon chemin, que les choses je les fais parce que je les aime, etc. Je vais puiser dans la passion, et la passion aussi, c'est un trait de caractéristique du Bélier. Donc on fait un bisou à tous les Béliers qui nous écoutent, qui sont nés entre le 21 mars et le 19 avril, nos audacieux, ou alors Chloé, tu pourrais les comparer à quoi ?
Aux Avengers.
Ah voilà, les super-héros. Deuxième signe du zodiaque, ceux qui mangent de l'herbe. Les épicuriens, ceux qui adorent aller au restaurant. Nos amis taureaux.
Le taureau, en fait, c'est l'hédoniste du zodiaque, effectivement. Lui, il cherche la paix, la stabilité, la tranquillité. Et du coup, c'est le premier signe de terre. Et donc lui, comme on l'a dit tout à l'heure, il se dit que c'est bien d'être quelqu'un, mais que c'est encore mieux d'avoir. Donc lui, il a la capacité, si tu veux, de développer des réalisations concrètes, tangibles, parce qu'il a un besoin de sécurité qu'il a envie de matérialiser. Donc il faut que ça se voit, il faut que ça se palpe. Et du coup, il aime bien acquérir des belles choses. Et en tant qu'épicurien, il adore bien bouffer, quoi. D'où sa réputation de gastronome.
Moi, j'ai beaucoup de copines taureaux. Alors, c'est vrai qu'elles adorent faire du shopping, elles adorent cuisiner, elles adorent manger, elles n'aiment pas qu'on leur pique leurs frites et elles adorent le chocolat. Bon, ça, c'est une chose. C'est quelqu'un qui est fier quand même, je dirais. Et donc, lui, ce qu'il veut, c'est posséder, s'affirmer au niveau des possessions et du matériel, c'est ça ?
Disons que sa sécurité, parce que les signes de terre, ils ont besoin d'une sécurité.
Ouais.
Et sa sécurité, elle passe justement par l'avoir.
Et donc, le taureau, il vient de quelle planète ?
Alors, notre taureau, il vient de Vénus. Et Vénus, c'est la planète de la sensorialité. Et chez le taureau, c'est très exacerbé. Et en fait, ça lui donne ce côté hypersensible aux sens, aux touchés, aux odeurs. Et d'ailleurs, petite réflexion, sa période, elle correspond à celle de la reproduction des animaux dans la nature.
Tu vois, il bouffe de l'herbe.
Oui, mais c'est surtout forte sensualité, parce que c'est la période de reproduction des animaux. Ça lui donne son goût pour la nature, justement. Il aime tout ce qui est naturel, zen. Il n'aime pas trop tout ce qui est sophistiqué.
Ah ouais,
ouais.
Est-ce que, justement, le paradoxe du taureau, ce ne serait pas d'être sur un yacht en été et d'aller se ressourcer à la campagne, chez la famille, à une autre saison ?
Alors, la campagne, oui.
Dis la vérité.
Le yacht pour l'été, je ne suis pas sûre.
Ah ouais ?
Ouais.
Moi, c'est ce que je retrouve chez mes copines taureaux.
Elle doit avoir d'autres petites planètes dans d'autres signes qui doivent influencer le truc. Mais en plus, tu sais, Vénus, c'est aussi les valeurs.
Ouais.
C'est pas que la sensorialité.
Alors, quelles valeurs on retrouve ?
En fait, tu vois, chez le taureau, c'est le passionné du fric, quoi. On associe Vénus, si tu veux, à la valeur qu'on donne aux choses.
Est-ce qu'on est si loin de l'idée du yacht ?
Le yacht, il faut pouvoir y arriver au yacht.
Ok, alors la villa.
Oui, c'est l'immobilier, c'est tout ce qui est palpable,
tout complètement. Tout ce qui est belle chose, quoi.
Parce que ça a de la valeur, si tu veux, ça n'en perdra pas, c'est pérenne. Il veut que ça soit pérenne.
Je vois.
Tu vois, le taureau.
Alors, comment est-ce qu'il crée son existence, le taureau ?
Du coup, il veut posséder et il veut conserver ses acquis. Il a un côté très, très possessif. Mais du coup, l'ennui, c'est que il a tendance à prendre racine et il bouge pas beaucoup, il change pas beaucoup. Et en fait, le taureau, il a peur du changement. Même si c'est un increvable, il est hyper résistant, mais y compris au changement. Et donc, le problème du taureau, c'est qu'il est persuadé qu'il faut rester constant et qu'il faut jamais changer. Il en devient quoi ? C'est quoi sa réputation, le taureau ? Il est routinier, et puis il est têtu, puis il est borné, parce qu'en fait, il est incapable d'envisager un fonctionnement différent. Parce qu'il est effrayé par la peur de perdre ce qu'il a déjà acquis, et donc pour lui, il se dit, s'il change, il va perdre ce qu'il a. Et donc, en fait, il se retrouve coincé dans son inertie et ça le perturbe. Si tu veux, comme le taureau, tu vois, à l'image du taureau, il est complètement irréversible. Donc, quand il se lance, bah déjà, il ne regarde pas sur les côtés et puis il n'arrive pas à reculer, il n'arrive pas à changer de cap, donc il n'arrive pas à s'adapter. Et puis, du coup, il rumine, il est incapable de se remettre en question. Mais un jour, eh bah, il comprend, parce qu'il n'en peut plus, puis il éclate, quoi, un peu comme une bombe à retardement. Il comprend qu'en fait, il ne peut pas tout résoudre sans rien changer, ni transformer, ni innover. Et donc, notre ami taureau, si on devait lui donner un conseil, c'est qu'il doit lâcher prise par rapport à sa résistance au changement, parce qu'il doit distinguer ce qu'il doit conserver et ce qu'il doit abandonner. Donc, il doit distinguer ce qui est pérenne et ce qui vaut le coup d'être gardé, d'où les possessions.
Et s'il s'en rend compte, le taureau, qu'est-ce que ça va changer dans sa vie ?
Eh bien, il va pouvoir développer l'adaptation, en fait, ce qui lui fait vraiment défaut. Parce que s'adapter, c'est changer.
Bon, alors c'est vrai qu'il a peur du changement, mais pourquoi on l'aime, le taureau, aussi ?
Ben parce qu'il est stable et rassurant.
C'est vrai, comme tu disais, le taureau, il est increvable. Et je pense que c'est ça qui rassure.
C'est un grand travailleur, il va jusqu'au bout.
Il est déterminé.
Il est déterminé et, comme je te dis, irréversible. Ça, c'est vraiment le truc... Il se retourne pas, il continue.
Il sait comment faire du fric ?
Bah ça, il pige vite. Hein.
Donc il vaut mieux avoir un taureau dans sa vie pour qu'il nous apprenne un petit peu.
À fructifier ses finances.
Voilà. Miss Shopping, Miss Voyage, réduction sur le vol Air France. Je parle bien sûr du signe Gémeaux, né entre le 21 mai et le 21 juin. Chloé, est-ce que tu peux nous parler du Gémeaux ?
Alors, notre ami Gémeaux, bah, c'est notre premier signe d'air. Donc, l'initiation de la pensée, on a dit. Bah, lui, c'est l'éternel étudiant. Il adore apprendre, il adore explorer, il adore multiplier ses intérêts. Pourquoi faire ? Bah, pour les communiquer et pour les échanger. Donc, en fait, lui, c'est vraiment le curieux du zodiaque. Il a une insatiable curiosité. Il a un esprit très vif et puis il a un incroyable sens de l'humour et de la répartie. Et en fait, lui... Il faut toujours le stimuler au niveau intellectuel, parce que c'est un cérébral. Et donc, lui, il touche un peu à tout, et il a cette capacité de passer du coq à l'âne avec d'une aisance et une facilité inouïe.
Alors, c'est vrai, j'ai beaucoup de Gémeaux dans ma vie, et c'est vrai qu'ils peuvent switcher même de groupe d'amis d'une saison à l'autre. Si ça leur semble pas intéressant, ils passent à d'autres richesses intellectuelles, d'autres intérêts, d'autres cultures...
Oui, en fait, c'est la multiplicité, le Gémeaux.
De quelle planète il vient, le Gémeaux ?
Notre ami Gémeaux, il vient de Mercure, justement. C'est un signe intellectuel, donc Mercure, c'est la planète de l'intellect. Et c'est justement l'art du langage. Il a ce côté orateur, mais lui, il a une dualité. Parce qu'en fait, il a une double personnalité qui est liée à un dédoublement intérieur. Et donc, il peut montrer deux visages, ou carrément jouer double jeu. Et du coup, le Gémeaux, on a du mal à savoir ce qu'il pense vraiment, car il peut être amené à mentir, hein. D'ailleurs, ça fait les super bons joueurs de poker. Parce qu'en fait, eux, ils ont la particularité d'être à la fois acteurs et spectateurs d'eux-mêmes. Donc en fait, il y a une personne qui agit, puis t'as une personne, t'as l'autre partie, si tu veux, qui la regarde agir. Donc ils ont un sens extrême de l'adaptation. Et ils ont en plus cette capacité de se couper de leur affectivité. Donc en fait, ils se font pas embuer par leurs émotions. Donc ça leur donne cette polyvalence de faire plusieurs choses à la fois.
Pourquoi tu dis qu'ils sont acteurs et spectateurs ? En fait, qu'est-ce que ça leur procure d'être à deux endroits à la fois ?
En fait, non. Ils sont toujours au même endroit, mais il y a un dédoublement intérieur. Il y a une partie de lui qui agit et il y a une partie de lui qui se regarde agir. Le spectateur, il se regarde agir.
Quand le Gémeaux, il fait l'amour, est-ce qu'il se regarde faire l'amour ?
Je sais pas trop. La question... Et il faudrait que tu demandes à un de tes potes Gémeaux. Je pense que lui sera plus à même de te répondre.
Dans quel cas le Gémeaux, il pourrait être malheureux ? Dans quel trait de sa personnalité exacerbée, on a tous le défaut de nos qualités, il pourrait être malheureux à terme ?
Un défaut qui le rend malheureux, tu l'enfermes dans une pièce à double tour pendant 10 jours, le pauvre.
Donc le confinement, pour lui, ça a été gravissime.
Ah oui, complètement. Ah oui, ça, le confinement, c'est pas fait pour un Gémeaux, c'est plus fait pour le signe d'après. C'est plus pour le cancer.
Donc, c'est quoi son défaut majeur ?
Le problème du Gémeaux, c'est que tu vois, comme il aime faire plein de trucs en même temps, bah, du coup, ils manquent de discipline. Et donc, bah, en fait, il croit que en fait, si les choses lui échappent, bah, c'est qu'il n'a pas encore assez exploré, alors qu'il a déjà mille et une idées dans la tête. Et donc, du coup, il part encore à l'affût de découvertes inédites. Et puis, il est dispersé, il est inconstant, il est imprévisible. Il n'arrive pas, si tu veux, à se fixer un but. Puis, il y a son tourbillon d'idées, là, puis s'éparpille.
Ouais.
Et puis, il se retrouve dans une impasse. Tu vois, c'est le fameux dicton « trop de choix, tu le choix ». Ben, à un moment donné, il comprend qu'il faut arrêter de papillonner. Mais surtout, il comprend que, en fait, il n'existe pas qu'une seule idée unique et meilleure à choisir. Il a un côté un peu linéaire. Il pensait qu'il n'y avait qu'une seule idée et qu'il fallait qu'il en choisisse une, ouais, mieux que l'autre. Et du coup, ben, il va comprendre que ça ne sert à rien de penser qu'il n'y a qu'un seul chemin pour y arriver. Et c'est là qu'en fait, il va prendre confiance en lui et qu'il va comprendre que sa polyvalence, en fait, est vachement utile à développer. On appelle ça un don d'ubiquité. Ouais, c'est un nom un peu barbare, j'avoue. Mais du coup, c'est nécessaire pour développer ses potentiels.
Le Gémeaux, il peut être polyvalent dans quoi ? Et s'il comprend que c'est en étant polyvalent et pas justement en allant chercher la meilleure idée, le truc, etc., quand il arrête de se disperser, en quoi sa polyvalence, elle va lui servir dans la vie ?
Ben parce que, par exemple, il peut s'intégrer dans un groupe et parler de 10 000 sujets à la fois parce qu'il aura appris, justement, sur ces 10 000 sujets. Donc, il va pouvoir converser, en fait, avec tout le monde. C'est pas quelqu'un qui va se fermer et qui va être empêché de parler avec quelqu'un qui va avoir un sujet de conversation un peu plus pointu, bah lui, il est capable de parler de tout à tout le monde.
Ça en fait une personne donc très cool à rencontrer dans un bar, par exemple.
Complètement. Et même à inviter à un dîner. Au moins, t'es sûr qu'il n'y aura pas de blanc au dîner.
Ouais, voilà, tu t'ennuies pas avec un Gémeaux.
Ah non, tu t'ennuies jamais.
J'ai pas envie de finir par une note négative, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que moi, sur les réseaux, les Gémeaux, ils prennent cher. Pourquoi ? Est-ce que c'est ce côté, justement, double visage, inconstant ? Qu'est-ce qui donne l'impression que c'est des personnes bipolaires ? Alors que pas du tout, ils sont tellement sympathiques. Enfin, explique-moi ça.
Non, c'est parce qu'en fait, on peut jamais vraiment les connaître. Parce qu'en fait, ils ont plein de facettes. Puis ils sont très smart, très intelligents. Mm-hmm. Et du coup, ils vont s'adapter. Parce qu'en vrai, techniquement, on dit en astro, c'est un signe mutable. Et le signe mutable, c'est celui qui s'adapte. Et en fait, lui, il s'adapte à toutes les situations.
Donc, c'est pour ça que t'as l'impression qu'il peut faire volte-face ou changer sa chemise. Ah, j'ai du mal avec les expressions.
Retourner sa chemise.
Retourner sa chemise.
Exactement.
Mais c'est ça qui fait la beauté aussi de ce signe.
Ah, bah, c'est sa force, clairement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on assimile le signe du Gémeaux à la maison 3, qui est justement la maison de l'apprentissage et de la communication.
Donc là, on va rentrer dans une bulle d'amour avec le quatrième signe, le cancer, signe d'eau.
Alors, notre ami cancer, on l'appelle le protecteur du zodiaque. Et c'est le premier signe d'eau. C'est le symbole de l'eau originelle. C'est l'eau de source ou l'eau de naissance, si tu veux. Et donc, ça correspond, tu sais, au principe maternel ou matriciel. On pourrait comparer son eau, tu sais, au liquide amniotique. Il est relié à tout ce qui est à l'origine, à tout ce qui peut donner un ancrage, justement.
Ouais.
Parce que quand t'es dans le ventre de ta mère, bah, tout s'initialise, en fait, pour toi. Hein. Et donc, notre ami cancer, bah, lui, son but, il recherche le bien-être avant tout. Et comment il fait ? Bah, lui, il veut créer des liens avec les autres, donc au sein de la société, pour fonder bah, soit un foyer, soit une communauté. Il a besoin, si tu veux, de créer son cercle pour avoir des appuis et trouver une sécurité émotionnelle. Et donc, une stabilité intérieure. En fait, si tu veux, le cancer, c'est le mondain introverti. Tu vois, il est attaché au monde de son enfance, aux souvenirs, aux liens familiaux, parce qu'en fait, il a vraiment ce puissant besoin de sécurité psychique. Et il le puise, si tu veux, dans le socle de son enfance.
Quand tu dis mondain, est-ce que ça se retraduit plus tard dans la volonté de faire des dîners, de côtoyer, de créer, bah, comme tu dis, des communautés, c'est ça ?
Exactement. Okay. Il a besoin d'évoluer dans son cercle.
Donc, c'est un mondain. Et ce que j'ai remarqué aussi chez les cancers, c'est qu'ils aiment bien aussi, bah, c'est marrant un petit peu, mais comme le taureau, les belles choses, okay, le chic, la belle éducation, la politesse. Moi, je remarque toujours la politesse chez les cancers.
Bah, en fait, le cancer, c'est un signe féminin. Donc, il est très attaché donc, à sa mère, au principe maternel. Et du coup, la mère, elle a un rôle énorme donc,
c'est
dans
vrai.
L'éducation.
Oui, beaucoup de bienveillance, beaucoup de protection, de... Voilà, c'est vraiment quelque chose que je remarque.
Oui, il a un côté nourricier, le cancer.
Mais autant qu'il a envie qu'on le nourrisse aussi, j'ai l'impression.
Bah, il se nourrit des autres parce que c'est un signe d'eau et qu'on est dans l'émotionnel. Il a besoin de se relier aux autres.
C'est ça, bon, tout est lié, c'est un truc de fou. Donc, le signe du cancer, de quelle planète ou de quel astre vient-il ?
Eh bien, il vient de notre chère Lune. planète des émotions.
La fameuse.
Et c'est pour ça qu'en fait, il est hyper émotif. C'est le signe le plus émotif du zodiaque. Il a une forte sensibilité. Et comme la Lune, elle est reliée au pouvoir de l'imaginaire, bah, ça lui donne ce côté hyper créatif. Mais après, notre Cancer, il est aussi fier, il est loyal. Et d'ailleurs, si tu regardes bien l'image de son glyphe, bah, il ressemble à un petit crabe. Et bah, il a ce côté un peu carapacé. Donc justement, protecteur parce qu'il se protège.
Et est-ce qu'il peut penser comme le crabe?
Eh bien en fait, le crabe, il n'a pas mauvaise réputation, il n'attaque pas. Mais par contre, il sait se défendre. Il a un côté intuitif très fort. Et puis, bah, tu vois, à l'image de la Lune, il est tantôt lunaire, tantôt lunatique. D'où cette tendance au caprice enfantin.
Donc le plus grand défaut du Cancer, est-ce que c'est le caprice?
Alors non, c'est qu'en fait, il a tendance à être passif. C'est un contemplatif. Et comme il est hyper attaché à sa mère, donc à la cellule maternelle, donc matricielle, celle qui vient de l'origine, bah il conjugue sa vie au passé, lui. Lui, il ne fait jamais des projets d'avenir, lui, il fait des projets de passé. Et donc, il a ce côté un petit peu, tu vois, indolent. C'est le paresseux qui a une phobie de l'effort. Parce qu'en fait, le problème qu'il a, c'est qu'il vit dans une insouciance et une illusion d'avoir été pris en charge, donc évidemment par sa mère, sans qu'il n'y ait eu à en faire la demande. Et donc, il croit que la vie va tout lui apporter sur un plateau d'argent, sans faire d'effort. Comme sa mère, elle fait, tu vois.
Alors moi, j'ai une question, justement. Est-ce que pour un homme ou une femme cancer, si le cancer est avec une femme, est-ce qu'il va la prendre pour sa mère? Ou est-ce qu'il va rechercher?
Oui, il va rechercher l'image de sa mère, complètement.
Alors, copine vs maman, qui passe en premier?
Ah, c'est toujours maman, la number one.
Voilà, vous le savez.
Ah non, mais c'est fou. Mais du coup, tu vois, à l'image de Mars en cancer... Mars, c'est un peu la force de combat qui se retrouve justement en perte d'énergie.
Alors pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai ma planète Mars en cancer. Et donc, la planète Mars est en chute en cancer.
Bah, je le dis pas par rapport à toi, mais je le dis surtout par rapport à l'image de l'archétype, qu'en fait, le cancer, il n'est pas très combatif. Il n'aime pas ça, le combat. C'est pas son truc, c'est pas sa tasse de thé. C'est pas un bélier. Et en fait, donc, il n'est pas très combatif. Et lui, il attend que les choses s'arrangent toutes seules. Lui, il va plutôt se réfugier dans sa coquille, dans son petit cocon. Donc il a un petit côté quand même immature, et puis en fait il vieillit mais sans grandir. Et puis surfe sur ses facilités ou sur ses appuis, donc son cercle, il va s'appuyer dessus. Mais en fait un jour, il va comprendre, notre ami cancer, qu'en fait la vie, elle donne pas ce que l'on n'a pas permis d'exister. Parce qu'il peut avoir un petit poil dans la main, hein, notre cancer, hein. Il a un manque d'ambition parce qu'il a peur de l'effort. Et c'est vraiment cette peur, si tu veux, qui lui donne une limite. Parce qu'il perçoit ça comme une souffrance. Mais en vrai, quand il comprend ça, eh ben, il va un peu se bouger. Et puis, il va même aller pouvoir décrocher sa lune pour s'adulciner, pour grandir avec confiance dans la vie. Et c'est pour ça qu'on assimile le cancer, si tu veux, à la maison 4, la stabilité intérieure qui est la confiance en soi.
Donc, en fait, le cancer, quand il comprend qu'il peut aller décrocher lui-même sa lune... pour reprendre tes mots, il se rend compte que c'est un être créatif, qui a un imaginaire débordant et qui est très intuitif. Donc ça, c'est absolument formidable dans la vie comme qualité.
Complètement. Bah, il comprend qu'il peut compter sur lui et pas que sur les autres.
C'est ça, la confiance en soi, en fait.
Exactement.
Et juste dernier truc, mais pourquoi un crabe déjà?
Bah, parce qu'en fait, il aimerait bien qu'on le prenne avec des pincettes, mais ça ne serait pas bon signe.
Voilà. Born to be a star, est-ce que ce serait le signe du lion?
Eh oui, c'est la notre star du zodiaque. Et donc là, on passe au second signe, donc le second bloc. C'est le second signe de feu. Et donc là, on est justement dans l'intensification du moi. Moi.
Mon père est lion, je confirme, merci. Il a fait réaliser une peinture de lui chez lui, c'est excellent. C'est très grave. C'est très très grave.
Alors, notre ami Lion, il incarne justement un pouvoir créateur personnel. En fait, il incarne la force en soi, tout simplement, parce qu'il a besoin de créer. Et du coup, il cherche les honneurs, il cherche la lumière. Le Lion, c'est vraiment l'art de briller. Et puis, il a besoin, tout le temps, d'être le centre d'attention et surtout d'être admiré. Donc, en fait, il aime bien tout ce qui est mise en scène. Il adore être sous les feux de la rampe, tu vois, pour montrer ses talents. D'où le côté très théâtral, d'ailleurs, du Lion. Et puis, comme c'est quand même le soleil, la planète, Ça le rend très magnétique, loyal, fier. Il a ce sens de l'honneur. C'est un peu l'empereur, quoi.
Donc oui, c'est ça. Tu dis le soleil, la planète. Oui, en fait, la planète, l'astre du lion, c'est le soleil.
Exactement.
Il a cette chance.
Il a cette chance d'avoir la plus grosse planète, enfin, qui est d'ailleurs une étoile, hein, la oui. plus grosse planète du système solaire. Et d'ailleurs, c'est ça qui le rend chaleureux et généreux. Et puis ça lui donne aussi une autorité naturelle, parce que le soleil, c'est à la fois l'ego, mais c'est aussi l'autorité.
C'est vrai, parce que c'est marrant, mais un peu comme chaque signe identifié à leur symbole. Mais c'est vrai que les personnes qu'on connaît qui sont lions, on les imagine sur leur rocher, sur leur colline, tout plein de sagesse, en train de transmettre finalement ce qu'ils savent. Moi, c'est un peu ça l'image que j'ai du lion.
Ben, le lion, c'est plutôt la personne qui est sur le piédestal, quoi. Un peu l'image du soleil. Ça, ils ont vraiment le moi expansionniste, quoi.
Oui, mais c'est pas qu'un défaut en soi.
Ah non, de toute façon, c'est l'archétype. Après, la personne, si tu veux, c'est à elle d'équilibrer ses qualités et ses défauts. Hein. Mm-hmm. Mais là, c'est l'archétype général, bien sûr. Et puis après, il y a toute la palette des autres signes qui va donner justement des variantes. Mais le lion, si tu veux, le vrai lion qui a plein de planètes en lion, l'archétype du lion, bah, c'est ça.
Ça va être vraiment ce côté spectacle, mise en avant de ses talents.
C'est ça.
Donc du coup, mise en avant de ses talents dit talent.
Ah ben complètement.
Voilà, donc bien il sûr. A des talents innés.
Alors pas forcément, il aimerait bien, mais il va vouloir les montrer, ça c'est sûr. Après, ça dépend de la personne, si elle en a ou si elle en a pas. Hein. En tout cas, il doit le développer, d'accord. Ça c'est sûr.
Et alors du coup, un lion qui n'a pas de talent, ça fait quoi? Bon, on a tous un talent pour quelque chose, hein. On s'inquiète pas. Hein.
Ça fait que bah, du coup, il va vouloir se montrer, parce qu'il a un petit côté un peu show-off. Et en plus, il est orgueilleux, donc il est sensible à la flatterie. Mais quand t'as pas de talent, ben, on va se foutre de ta gueule. Donc, du coup, ça va pas être super agréable pour lui, quoi.
Alors, comme il vient du soleil, hein, donc on va l'appeler le roi soleil, ça en fait quelqu'un de charismatique qu'on voit dans la rue. Quelle aura se dégage de lui?
Oui, c'est exactement ça. Il dégage l'image du chef charismatique, mais de par sa personne, pas par rapport à son titre. C'est ça. Par rapport à son rayonnement.
Oui, tu parles d'autorité naturelle et en fait, ça se traduit comme ça physiquement. Il n'y a pas besoin d'en faire. Ça, c'est un peu la bonhomie, quoi.
C'est exactement ça. Il n'a pas besoin de la fonction pour avoir justement cette autorité.
Alors, j'ai remarqué chez mes copines Lyon, elles sont toujours partantes pour faire la fête. Enfin, elles disent toujours oui à tout parce qu'elles ont peur de manquer quelque chose. Est-ce que ça vient de là?
Bah oui, parce que en fait, le lion, c'est de la lumière, si tu veux, du soleil. Donc, il aime tout ce qui est luxe, faste, majestueux, donc tout ce qui se voit. Mmh. Et du coup, ça le rassure d'être visible. Et donc, oui, il va pas louper une fête. Et donc, il va vouloir être présent à toutes les fêtes pour qu'on l'ait vu.
Donc, si on doit aller chercher dans ses travers, quel va être son défaut à améliorer?
En fait, la base du lion, c'est qu'il a peur de pas être aimé. Le hic, c'est qu'il croit que l'amour reçu va être proportionnel à ton attractivité. Tu vois, ton côté un peu exceptionnel. Lui, il pense clairement qu'on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Et que du coup, il faut qu'on se détache du lot pour être remarquable et remarqué. Et donc, le problème, c'est qu'il a tendance à se prendre un peu pour le nombril du monde et qu'il se retrouve ébloui par sa propre lumière, mais il finit par éteindre les autres. Et en fait, ce qu'il recherche, il n'arrive pas à l'obtenir. Parce que lui, il cherche l'amour. Il veut attirer l'amour et la considération. Et en fait, à la fin, quand il voit que ça ne marche pas, il va se rendre compte, un jour, au lieu d'attirer des êtres sans lumière, que ça doit pas venir de l'extérieur, mais ça doit venir de l'intérieur, l'amour de soi. Et qu'en fait, il a un pouvoir, si tu veux, de créer par rapport à ses talents. Et donc, il doit justement, si on a un petit conseil à donner au lion, il doit apprendre l'autosuffisance, mais à se nourrir d'amour de soi. Et c'est pour ça qu'on assimile la maison 5 au lion, parce que la maison 5, elle parle d'amour propre, de l'estime qu'on a de soi, et ça doit pas passer par le regard des autres, mais ça doit passer par l'intérieur de soi.
Donc ce que tu dis, c'est que pour le lion, le regard des autres est très important, qu'une salle où il n'y a pas d'applaudissements, c'est très dur pour lui, entre guillemets, et donc il doit apprendre à s'applaudir.
Exactement, il doit s'en détacher du regard des autres.
Magnifique. Bisous les lionnes. Alors, Chloé, vierge sage ou vierge folle?
Un peu des deux.
Un peu des deux.
Ben oui, un peu des deux.
Alors, avec la vierge, est-ce qu'on peut mettre des ronds dans des carrés?
Non, Ça, c'est pas possible. Les carrés, ça va avec les carrés. Les ronds, ça va avec les ronds.
Voilà, bah, c'est tout ce qu'on va découvrir avec l'archétype de la Vierge.
C'est qui notre Vierge? Bah, c'est l'experte. Elle développe une expertise dans tout. Elle a le sens de l'observation. Elle décortique tout pour contrôler. Mais surtout, en fait, parce qu'elle a besoin de sécurité matérielle. Et en fait, elle est tellement prudente que, bah, elle épargne par peur de manquer. Ou sinon, elle s'épargne par peur de souffrir. Et notre Vierge, bah, elle aussi, comme les Gémeaux, tu vois, c'est un signe double. Donc, elle a une dualité.
Mmh. Et en plus, ils viennent tous les deux de la même planète.
Exactement, tout à fait. De Mercure. Du coup, la réputation qu'elle a, la pauvre, c'est soit elle est follement raisonnable, soit elle est raisonnablement folle.
Oh là là, j'adore. C'est... Ah, c'est... faut la mettre en citation.
Tu parlais de la Vierge folle tout à l'heure. Ben, en fait, la Vierge, elle a la particularité, quand elle a horreur d'être Vierge, parce qu'elle est très dure quand même avec elle-même,
ouais.
Ben, elle se transforme en scorpion. D'où la Vierge folle. Et d'ailleurs, à quoi on le comprend? Si tu regardes le glyphe c'est quoi? C'est le logo,
c'est le symbole.
En fait, du signe. C'est le symbole.
C'est le petit M que vous voyez dans le symbole avec la petite queue qui pique pour le scorpion et celle qui rentre à l'intérieur pour la Vierge.
Exactement, voilà. Mais en fait, c'est le même M. Il y en a une sans dard et une avec dard. Donc en fait, c'est l'autre visage de la Vierge.
Alors pardon, mais quelle est la différence entre le scorpion et la Vierge? Est-ce que le scorpion, il pique vers l'extérieur et la Vierge, elle pique vers l'intérieur?
Oui, la Vierge, elle n'est pas méchante. Le scorpion, il peut devenir méchant.
Et quand la Vierge, elle en a marre, est-ce qu'elle sort son dard?
Bah, elle se transforme en scorpion, justement.
Mais avec les mots. C'est ce que tu m'as toujours dit.
Exactement. Elle va piquer avec les mots. Complètement.
Ça peut être très dur, d'ailleurs.
Ça peut être cinglant, oui.
Donc, tu disais que le Gémeaux et la Vierge ont quelque chose en commun, c'est qu'ils viennent tous les deux de la même planète. Donc, ils viennent de Mercure. Alors, quelle est la différence entre Gémeaux qui vient de Mercure et la Vierge qui vient de Mercure?
Eh ben... Justement, Mercure, donc on a vu pour le Gémeaux que c'était la planète de l'intellect, mais c'est aussi la planète de la raison. Donc les deux, ils ont un côté cérébral, hein, ça c'est sûr. Mais à l'inverse du Gémeaux, qui multiplie l'information, eh ben la Vierge, elle l'analyse, elle la divise. Et donc en fait, elle divise, parce qu'elle est en fait, elle est en quête de perfection. Elle veut être précise, la Vierge, elle veut être exacte, comme l'heure et comme la science. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit qu'elle n'a jamais tort et qu'elle a toujours raison.
Ah là là, je ne peux pas m'empêcher. Je pense que chacun pense à quelqu'un en fait. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas juste écouter votre signe solaire, parce que je prends mon ami qui est balance ascendant vierge et je peux vous assurer qu'il y a 80% de son temps où il est vierge. C'est un psychorigide malade mental qui me fait des réflexions absolument sur tout pour que tout soit parfait. Et moi, Bélier, j'en ai rien à foutre de laisser traîner mes trucs parce que c'est pas parfait, bah c'est pas grave, on est sauvage. Et il me casse les pieds avec son côté vierge, j'en ai marre. Mais bon, d'un côté, c'est très rassurant et j'ai besoin d'une vierge dans ma vie.
Oui, la Vierge, elle est un peu pointilleuse sur les bords, tu vois. Elle cherche toujours la petite bête. Tu vois, c'est son côté entomologiste. Et elle joue la maniaque.
Non mais au sens propre, elle cherche la petite bête.
Ah oui.
On a toutes les deux notre lune en vierge et on s'est fait une réflexion la dernière fois. On est partis en week-end toutes les deux et on était là en train d'analyser les petits insectes. Mais c'est vrai, on cherche tout ce qui est petit.
Oui, la petite bête, la tâche, tu retouches, t'améliores. Et du coup, la Vierge, c'est pour ça qu'elle a un petit côté zinzin, tu vois. Elle est complètement toquée.
Elle a un pétocasque. Et moi, quand j'envoie des photos de mes plats à Chloé, j'ai tout réparti. J'enlève les pépins des raisins. Vous imaginez ou pas? Genre, j'ai besoin de...
Et la peau, peut-être.
Ouais.
Ah non, mais
bref.
La Vierge, elle a un côté bah, comme le scorpion obsessionnel. Et du coup, quand elle coupe pas les cheveux en quatre, elle cherche une aiguille dans une botte de foin.
Ah, c'est énorme. Bon, alors attends. La Vierge, son essence avec Mercure... Quelle propriété, quelle qualité ça lui donne?
Bah, les qualités, c'est vraiment le côté parfait, quête de perfection, elle voit tout de suite, le détail, elle sait exactement comment tout doit être. C'est inné chez elle. Quand elle voit une situation, elle sait exactement comment tout doit être.
On peut lui faire confiance alors?
Ah oui, ça c'est sûr. Par contre, le problème de la Vierge, bah, c'est que à force de vouloir être rationnelle comme la science... Elle croit que le monde, il est fini, qu'il tient dans une petite boîte, tu vois? Qu'elle peut décoder les arcanes, qu'elle peut en discerner, maîtriser les contours, et qu'elle peut expliquer tous les phénomènes de la vie.
J'ai envie de rebondir là-dessus parce qu'on a toutes les deux notre lune en vierge, et c'est pour ça que c'est important de comprendre l'archétype pour l'adapter à la planète et à ses fonctions. La lune, c'est les émotions, Et comme on l'a en Vierge, on a besoin d'intellectualiser nos émotions, de les rationaliser. En fait, quand il y a un problème, on va être là à disséquer les informations et à ne pas dormir de la nuit jusqu'à trouver la cause, le problème et l'effet, quoi.
Exactement.
Mais c'est insupportable.
Ah oui, c'est insupportable.
Mais on est insupportable.
Bah oui, bah, le gros problème de la Vierge, c'est qu'elle n'arrive pas à se fier à son intuition. Et c'est là qu'il faut lui dire d'appeler Lily de la Haye. Et oui, comme ça, elle va l'aider, tu vois. Parce qu'en fait, la Vierge, elle n'arrive pas à prendre des décisions. Parce qu'elle n'a pas encore assez étudié tous les scénarios possibles. Mais le problème, c'est qu'à force de disséquer, tu vois, grain de sable après grain de sable, toute la carte de son monde, là, parfait.
Ouais.
Et en fait, c'est que son monde, il grandit. Parce qu'elle a de plus en plus de détails. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Elle se perd devant tous les milliers de détails qu'elle a relevés. Et puis un jour, par un lâcher prise de vouloir tout maîtriser, elle comprend en fait sa force. Et sa force, c'est quoi? C'est la force du discernement qui lui permet de se différencier du reste du monde grâce à toutes ces analyses qu'elle a faites. Et c'est ça qui va lui donner son assurance. Pourquoi? Parce qu'elle sait maintenant se définir par rapport aux autres.
C'est vrai que la Vierge, elle a quand même quelque chose de particulier, c'est sa prise de recul. Comme elle analyse absolument tout, elle a un côté tête froide, sang froid, et elle est forte.
Ouais, elle a du discernement.
Et d'ailleurs, exactement. Moi, ça me fait toujours penser à la Vierge Marie, à la femme du zodiaque, je ne sais pas pourquoi. Mais oui, c'est cette femme forte. Voilà ce que m'inspire la Vierge. Et le plateau du zodiaque se renverse pour passer à la deuxième partie, donc les 6 autres signes du zodiaque, et grâce à la Balance.
Et oui, notre chère Balance.
Alors, à toutes les balances, vous qui aimez faire la fête, vous qui êtes nos meilleures copines, vous les pacifistes, vous les avocates, Chloé.
Notre Balance, c'est un peu la gardienne de la paix du zodiaque, en fait. Elle est à la fois RP et à la fois diplomate. Mais ce qu'elle cherche avant tout, c'est l'harmonie. Et donc, en fait, elle aime créer des liens, car elle a un vrai sens relationnel. Mais tu vois, la différence du Cancer, c'est pas un lien émotionnel, c'est un lien social qu'elle veut. Et elle cherche à maintenir un équilibre dans ses relations. C'est vraiment la bonne coéquipière. C'est le second signe d'air. Donc, on est dans l'intensification de la pensée. C'est pour ça qu'elle a un esprit littéraire, mais raffiné. Parce qu'en fait, le monde de la Balance, bah, c'est celui du cœur. Alors que celui des Gémeaux, bah, c'est celui de l'esprit. En fait, on pourrait dire que la Balance, c'est un peu le dialogue affectif.
Dans le monde de la Balance, c'est un monde de beauté?
Alors oui, ça, on va le voir exactement juste après. C'est avec sa planète, ouais. Vénus, qui est notre fameuse déesse de la beauté.
Et bien justement, donc, le Taureau et la Balance ont en commun la même planète, donc Vénus. Quelle est la différence de Vénus pour le Taureau et Vénus pour la Balance?
Et bien la Balance, ça va être physique, c'est esthétique.
Ouais.
Parce que cérébral, parce qu'on est dans un signe d'air, alors que pour le Taureau, c'est sensoriel, parce d'accord. qu'on est dans un signe de terre.
Donc valeur,
matière palpée.
Ouais.
Exactement.
Ok.
Et donc, oui, effectivement, cette Vénus, elle donne un sens esthétique et artistique à notre Balance. Parce que la Balance, elle adore le beau, l'élégance, elle parle toujours avec tact, précaution. D'ailleurs, bah, le monde de l'art lui va comme un gant.
Vous le voyez pas, mais Chloé, elle porte des gants. Ben d'ailleurs, c'est des mitaines.
C'est ça, je suis ascendant Balance.
Elle ascendant Balance et c'est ses propres créations. Donc voilà, la Balance, ça te sied parfaitement.
Ah oui. Et du coup, notre petite Balance, elle est hypersensible. Elle déteste les conflits. Mais comme elle est cérébrale, elle arrive à prendre de la distance par rapport à ses émotions. Et c'est ça, son joker. Ça la rend impartiale. D'où l'image de la justicière en quête d'équité. Parce que ça, elle a un sens inné de la justice ou du juste. Mais bon, dans le doute, la Balance, elle pèse ses mots.
Mais alors moi, j'ai une question. Elle n'aime pas le conflit, mais est-ce qu'elle aime mettre les pieds dedans quand même? C'est une coquine, la Balance, hein?
Non, elle n'aime vraiment pas le conflit.
Non, mais elle n'aime pas le conflit. Mais est-ce qu'elle aime bien créer le conflit pour justement se mettre en intermédiaire? Tu vois, pour avoir son rôle à jouer. Tu vois ce que je veux dire?
Bah, c'est un peu tendu, là.
Ouais, c'est un peu tendu, mais moi, c'est ce que j'ai remarqué.
Bah ça doit être une Balance qui doit avoir du Pluton quelque part.
D'accord.
Oui. Parce pour que tu se vois, donner un rôle.
Ouais, voilà, c'est
tu
ça.
Tu penses à qui quand tu dis ça?
Ah, franchement, à toutes les Balances autour de moi. Et Dieu, oh, que j'en...
À celle qui est très, très proche de toi?
ouais,
parce par que celle exemple. Qui est très, très proche de toi, elle a Mercure conjoint Pluton.
oui, mais pas que. Parce que c'est des coquines, les Balances. Tu vois ce que je veux dire?
C'est des coquines. Dans quel sens, coquines?
C'est des coquines où, dans le sens... C'est vrai qu'elles ont des qualités, entre guillemets, d'harmonie, de vouloir faire régner la paix, etc. Et j'ai l'impression que, bon, bah, s'il n'y a plus de sujets conflictuels, bah, il n'y a plus rien à faire régner.
Oui, je vois.
Peut-être que je suis partie trop loin, c'est ma lune en vierge.
Non, après, c'est une perception. Mais disons que la balance, elle est très carrée, elle est très droite et elle veut être juste. Et c'est pour ça que d'ailleurs, elle a deux plateaux et elle pèse. Elle passe sa vie à peser. Le pour, le contre, elle veut vraiment être juste.
Alors justement, bon, le plus gros cliché sur la balance, c'est qu'elle n'arrive pas à faire des choix.
Ben ça, c'est faux.
Est-ce que tu peux y répondre ?
Je ne comprends pas d'où vient ce mythe. Mais non, la balance, elle sait très bien choisir. C'est juste qu'elle prend son temps. Et d'ailleurs, je vais vous l'expliquer pourquoi elle prend son temps. Parce qu'en fait, si elle a Vénus d'un côté sur un de ses plateaux, elle a Saturne de l'autre côté. Saturne, c'est la planète qui est en exaltation dans le signe de la balance.
Chronos.
Exactement. Et Saturne, c'est le relou du zodiaque. C'est celui qui est lent, c'est celui qui freine. Et donc, c'est pour ça qu'elle prend le temps de réfléchir. Elle ne fait pas que pétiller de joie et de sortir et faire la teuf. Hein.
Ouais.
Des fois, elle s'isole un petit peu à cause de Saturne parce qu'elle a ce côté un peu mélancolique, comme le Capricorne. Et c'est un peu Jean qui rit, Jean qui pleure, tu vois.
C'est vrai. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez en entendant ça, mais c'est un truc de fou quand même. Il y a quand même ce côté très extraverti de la balance qui a vraiment... Enfin, moi, je retrouve ce côté mais compulsif de vouloir faire la fête, d'être entouré. De... Vraiment, c'est quelque chose où parfois même tu ne comprends pas. Quoi, c'est... Puis il y a un côté à vouloir s'isoler, se couper du monde pour se ressourcer. Ce côté mélancolique, comme tu dis, c'est très vrai.
Et pour prendre du recul. Ouais. Elle adore parce que c'est cérébral, tu vois, la balance. Donc elle veut toujours prendre du recul pour faire ses bons choix. D'ailleurs, la particularité, bon, c'est un peu une blague, mais elle est adorable avec les gens qu'elle ne connaît pas. Ça, c'est le côté vénusien, parce qu'il faut les séduire.
Ah là là.
Et elle est désagréable avec ceux qu'elle a déjà séduits, parce que l'affaire est déjà dans le sac. Mais ça, c'est le côté saturnien.
Oh, à bon entendeur. Bon, notre petite balance reine de beauté ne va pas s'en sortir comme ça. Quel est son plus grand défaut ?
Eh ben voilà, le hic, c'est que la balance, elle est trop mesurée. Elle se contrôle, elle contrôle. Mais pourquoi ? Mais parce qu'en fait, elle ne veut pas trop s'affirmer. Et elle est en face du bélier, je le rappelle. Hein. Et donc, en fait, elle exprime peu ses désirs. Et donc, elle reste trop consensuelle, par peur de déplaire. Et puis, surtout, par habitude de prendre des gants. Et au point d'en devenir conformiste.
Justement, est-ce que ça la rend fausse ?
En fait, elle n'est pas fausse. Mais en face, on peut avoir l'impression qu'elle l'est. Parce qu'elle veut tellement faire plaisir à l'autre. Elle n'ose tellement pas s'affirmer. Que du coup, on peut croire qu'elle l'est, mais elle ne l'est absolument pas. Hein. Et d'ailleurs, tu vois, tellement conformiste qu'elle est capable de dire oui pour le mariage au bélier, en face du zodiaque. Parce qu'elle veut pas l'offusquer, tu comprends ? Puis comme elle adore faire la fête et s'unir, elle se dit un mariage, c'est cool. Sauf que le problème, mariée, la balance après, elle s'en balance. Puis elle rencontre quelqu'un.
Séductrice, la balance ?
Eh ben oui, c'est ça. C'est parce qu'elle est très séduisante, donc elle attire comme un aimant. Du coup, elle se retrouve avec deux personnes, voire même peut-être plusieurs. Et puis du coup, entre les deux, son cœur balance. Mais au final, t'as quand même un déséquilibre qui s'installe, et ça, elle aime pas la balance. Tu vois, elle finit par s'écrouler sous le poids des désirs de l'autre. Mais jusqu'au jour où elle comprend enfin qu'elle ne peut pas porter les désirs de tout le monde. Et que l'harmonie du monde, c'est quoi ? C'est un état de déséquilibre constant. Parce qu'en fait, l'équilibre, tu le retrouves dans une dynamique, et justement, tu le retrouves dans le balancement. Alors, notre chère balance, un jour, elle comprend tout ça, et puis elle cesse de vouloir concilier le jour et la nuit.
Quel conseil tu lui donnes alors ?
Il faut qu'elle apprenne à exprimer ses désirs, donc à développer l'énergie en face du bélier. Elle doit s'affirmer.
Vive les balances quand même, parce que l'équilibre, c'est un petit peu tout ce qu'on cherche dans la vie. On passe au signe de la mort.
Pourquoi tant de haine ?
Non ! La transformation, la résurrection, le phénix.
Mais donc pas la mort, c'est la nouvelle vie après.
Exactement. Mais la mort de quelque chose implique forcément un nouveau départ.
Une transformation alors.
Oui. Le signe du scorpion.
C'est l'énigmatique du zodiaque. En fait, lui, il recherche l'intensité dans tout et il recherche un pouvoir de vérité. Parce qu'en fait, c'est le second signe d'eau. Et donc là, on est dans l'intensification des liens émotionnels. Donc, il a vraiment ce besoin de se sentir relié aux choses et aux êtres. Donc, il a un côté hypersensible, on ne pourrait pas croire, et hyper réceptif aux émotions des autres. D'ailleurs, qui sait très bien utiliser, voire même peut-être manipuler. Et en fait, notre scorpion, lui, il a soif, pas de bien-être, mais de plus être. Il veut toujours plus et il a horreur de la médiocrité. Donc, si on aime l'humour aussi ironique et sarcastique, on est servi.
Bon alors, j'espère que tout ce qu'on va dire, ça ne va pas froisser notre rédac chef ici en plateau avec nous, parce qu'elle est scorpion, comme à peu près toutes les personnes aussi dans ma vie. Donc voilà, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là de l'épisode, soit j'ai plus de taf, soit j'ai plus de potes. Voilà, allez Chloé, on continue. De quelle planète vient le scorpion?
Bah, si t'as plus de potes, tu vas prouver la légende du bélier, hein, à force de s'embrouiller avec tout le monde.
Non, laisse-moi tranquille, Chloé, c'est bon. Vous savez pas, hein, mais je prends très très cher. Je prends très très cher. Parce que je peux vous assurer que je me connais très bien maintenant, grâce à elle. Il n'y a pas le plus beau. Bon, alors, le scorpion, de quelle planète?
Alors, bah lui, il en a deux. Donc, il vient de Mars et de Pluton. Tu vois, il veut toujours plus. Et donc, bah, Mars et Pluton, c'est les planètes du pouvoir personnel et inconditionnel. D'ailleurs, si tu regardes l'orbite de Pluton, elle est excentrique. Et en fait, ça monte, ça fait le parallèle, si tu veux, par rapport au scorpion qui, lui, il a toujours besoin de créer son chemin à lui, donc en dehors des sentiers battus. Et c'est pour ça qu'on parle de lui un petit peu comme un marginal. Mais pas un marginal au sens premier, marginal au sens, tu vois, il aime pas suivre les moutons. Il aime bien innover, il aime bien créer son truc, quoi. Donc ça, c'est hyper important pour lui. Et Mars, donc l'autre planète, bah, ça lui donne, bah, comme le bélier, le sens de la confrontation. Sauf que lui, comme c'est un signe d'eau, bah, il recherche la fusion. Et donc, effectivement, c'est un passionné. Mais lui, c'est plutôt le champ d'amour en champ de bataille ou le cri de guerre en champ d'amour, quoi.
Et alors que tu parlais de prendre l'ascendant avec le bélier, est-ce que si c'est la même planète, est-ce qu'il veut prendre aussi l'ascendant d'une certaine manière?
Ah, complètement. Et alors lui, il le fait de façon snake parce qu'il le fait au niveau émotionnel. Il capte, si tu veux, les émotions des uns des autres. Il se sert de ça. Après, c'est pas une volonté forcément méchante. Ben, on va le voir d'ailleurs après.
C'est sa façon à lui de se rassurer.
Bah, de se rassurer parce qu'il a besoin de contrôler la situation, tu vois.
C'est vrai que moi, j'ai toujours remarqué chez les scorpions que pour te parler, pour te faire passer un truc, leurs idées, entre guillemets, ils se rapprochent de toi, prêts. Ils te regardent dans les yeux et ils te touchent.
Ouais, bah, c'est ça.
C'est ça, hein, ils veulent créer une espèce de bulle où tu ne peux plus sortir.
L'emprise.
Bah, c'est exactement ça.
Il cherche l'emprise. Ça, c'est le scorpion, complètement. Mais il n'a pas que ça, tu vois. Parce que le scorpion, le pauvre, on lui jette beaucoup la pierre, mais c'est un super signe. Et si tu veux, avec Pluton, il recherche l'authenticité dans le but de faire justement
tomber
les masques.
C'est ça.
Et donc, du coup, il provoque. Il est à l'aise qu'au milieu des tempêtes, lui. Parce qu'il se sent exister, pareil avec le bélier, dans des combats perpétuels. Alors qu'en fait, il s'agit d'un combat intérieur qu'il mène contre lui-même. Parce qu'il a un côté anxieux, tu vois, le scorpion. C'est un interrogatif entêté, il est un peu inquiet, puis il est obstiné. D'où ce côté d'ailleurs investigateur, c'est l'enquêteur, tu vois, notre scorpion. Toujours l'enquête, il est toujours dans le doute. Il a toujours ce doute omniprésent dans la tête. Et d'ailleurs, parfois, il doute de ses doutes et puis il impose son doute à tout le monde. Mais il te remet en question toute une salle. Il est capable de te remettre en question toute une salle.
Mais alors justement, cette quête d'authenticité, et c'est pour ça que j'aime les scorpions à ce point-là, c'est qu'ils sont intenses. Dans le sens où on se sent vivant avec eux et en ayant des scorpions dans notre vie.
Ah ben c'est la quête d'intensité et de vérité, le scorpion. Donc là, c'est sûr qu'on est en plein dedans.
Alors on l'aime le scorpion, mais quel est son plus grand défaut? Est-ce que c'est son emprise?
En fait, son plus grand défaut, il vient de ses peurs. Parce qu'il a peur.
Mais il ne veut pas se l'avouer.
Et il ne veut pas se l'avouer, ça c'est clair. Il a peur de la stagnation déjà, d'une part. Et en plus, il a peur qu'on lui vole son aura. Son énergie, son amour, sa force vitale, ses créations, son essence, quoi.
Ouais.
Il a vraiment peur qu'on lui vole ce qu'il possède de plus précieux.
Alors que personne ne va lui voler.
Et si tu veux, bah, il en devient comment? Il en devient mystérieux. Et donc, du coup, bah, il est là, en train de faire ses petits complots, ses petites stratégies secrètes, avec ses petites combines, ses petites manipulations. Et puis, il cache ce qu'il ressent de peur d'en être dépossédé. Et en fait, lui, il veut éviter de souffrir. Parce qu'en fait, ses angoisses, elles le polluent et ça le fait souffrir. Et donc, pour éviter justement ça, donc cette éventuelle perte ou l'éventuelle dépossession, donc ce qu'on va lui arracher, bah lui, il doit tuer la source de ses angoisses pour ne plus en dépendre. C'est ça le problème du scorpion, c'est-à-dire que c'est le passionné, mais en fait, il a horreur d'être passionné par ce dont il est passionné, parce que du coup, il a l'impression d'en dépendre.
Ouais.
Donc, c'est vraiment le chat qui se mord la queue, si tu veux. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il se pique. Ou il pique.
Alors, comment on peut l'aider, justement? Attends, il vient de la planète Pluton, quand même. Donc, c'est la transformation, c'est la remise en question.
Eh ben, c'est ça.
Comment est-ce que on peut l'aider, justement, à aller chercher la source de ses peurs pour les vaincre?
En fait, il va aller le chercher tout seul. Hein. Il va justement essayer de le détruire. Et puis, il va renaître. Parce que comme il a besoin de contrôler, ça te donne l'impression de contrôler sa vie, lui. Et donc, c'est un peu comme le phénix, si tu veux. Mm-hmm. Il va renaître de ses cendres. Et en fait, à force de répéter le schéma, à un moment, il va comprendre qu'il est vulnérable. Et sa vulnérabilité, si tu veux, elle vient du fait de vouloir posséder. Il croit, en fait, que les êtres lui appartiennent et que les choses lui appartiennent. Mais en fait, il va comprendre un jour qu'elles lui ont jamais appartenu et qu'elles sont là que pour lui faire expérimenter la vie. Et que c'est lui qui est le seul créateur de ses passions, de ses richesses. En plus, il a un pouvoir infini de création.
Pourquoi il a besoin de posséder ?
Parce que ça le rassure. C'est à lui. Il a l'impression que c'est à lui. Et puis d'ailleurs, je te rappelle qu'on est dans l'axe... Donc il est en face du taureau, dans les possessions.
Ouais.
Mais lui, il doit comprendre l'art de la dépossession, justement. Parce qu'il doit se détacher de ce qu'il croit posséder.
Mais tu vois, je trouve ça quand même assez paradoxal parce que le scorpion est un signe très quand même spirituel. Bon, je sais que la spiritualité, c'est pas propre à ce signe, mais c'est quand même quelqu'un qui a conscience de notre existence, de la mort, de la vie, etc. Comment il peut concevoir la vie avec des possessions ? Tu vois ce que je veux dire ou pas ?
Non, c'est pas concevoir la vie avec des possessions. Ça la rassure de posséder, de croire que c'est à lui. C'est juste sa sécurité émotionnelle.
C'est parce que c'est un signe fixe aussi ou pas ?
Exactement, c'est un signe fixe, mais c'est surtout que lui, ça le rassure, entre guillemets, de posséder, de croire que c'est à lui. Mais surtout, s'il a besoin de se sentir propriétaire de son conjoint ou des choses autour de lui, c'est pour ne pas avoir l'impression que l'autre va lui voler ce qu'il a, en fait.
Ok. Est-ce que tous les scorpions sont torturés ?
Ah oui, oui, oui. Bah oui, parce que, si tu veux, il est torturé pourquoi ? Parce qu'il est passionné, il a besoin de cette intensité, mais il ne supporte pas dépendre de sa passion. Donc en fait, il veut la tuer, sa passion.
En fait,
il veut la tuer.
Mais il est malade, en fait.
Ah oui, c'est le plus tordu.
Mais il est passionné, il a la chance d'être passionné, et lui, il veut tout foutre en l'air ?
Bah, c'est ça. Parce qu'en fait, il veut pas se retrouver prisonnier de ça. C'est vraiment, lui, il a un problème à la dépendance. Et d'ailleurs, on le comprend très bien quand on fait le rapprochement par analogie avec la maison 8, puisque la maison 8... ce qui vient après la maison 7 c'est l'autre, le conjoint, et bien la maison 8, elle parle justement des biens du couple ou du partenariat. Et en fait, c'est là qu'on mesure, si tu veux, une fois que tu t'es marié, une fois que tu habites ensemble, c'est là que tu vois le pouvoir de l'autre, en fait. Et donc, du coup, jusqu'où il va, l'autre ? Jusqu'où il va, son pouvoir ? Et c'est là où tu vois la confrontation. Donc ça illustre très très bien le scorpion.
Alors moi, j'ai une question. Quel signe, je pense qu'après on finit par ça, mais ça m'intrigue, quel signe pourrait assumer un scorpion en couple ?
Ah ben, un scorpion. Un scorpion. Il n'y a qu'un scorpion pour assumer un scorpion.
Mes deux meilleurs amis mariés sont deux scorpions. Et donc, du coup, ils peuvent se piquer, mais ils vont se piquer ensemble ou alors ils vont se détruire ensemble et s'aimer ensemble, bien évidemment.
C'est ça.
S'agit de continuer sur le Sagittaire. Chloé, oui. Je t'en prie.
Le Sagittaire.
C'est le 9e signe.
C'est ça. Donc là, on passe dans le 3e bloc. Et alors, le Sagittaire, ben, c'est l'explorateur du Zodiac. C'est l'aventurier. Alors, lui aussi, il cherche une vérité. Mais lui, c'est une vérité spirituelle. Par référence, justement, à la maison 9, qui est la spiritualité.
Ouais.
Et donc, lui, c'est le dernier signe de feu. Donc, les derniers signes, on a dit qu'ils étaient dans l'expansion. Et donc là, on est dans l'expansion du moi. Il cherche ses propres limites et il aspire à les dépasser. D'où d'ailleurs sa tendance à s'étaler un petit peu. Et si tu regardes son symbole, donc le glyphe, à l'image de la flèche, eh ben, il a un but très déterminé et une direction précise. Et donc il aspire à une certaine, si tu veux, élévation, mais par la connaissance. Et il développe vraiment, si tu veux, la volonté d'aller au-delà de soi.
Il aime la philosophie, le Sagittaire ?
Ah oui. Ah oui, oui, il aime apprendre, il aime la connaissance, il a besoin d'apprendre. Il recherche, si tu veux, la grandeur dans tout.
Donc quand tu parles de grandeur, justement, ça me fait penser de quelle planète il vient, le Sagittaire ?
Eh bien, il vient de la planète Jupiter. Mais en fait, c'est soit la quête de vérité spirituelle, soit la conquête matérielle. C'est la planète de l'expansion sociale et de la foi. Et c'est pour ça que notre Sagittaire, il inspire confiance et bienveillance. Parce qu'en fait, il a la réputation d'avoir un bon jugement. Et il a un côté vraiment bienveillant. Et du coup, bah, pour sa philosophie de vie, il doit apprendre à concilier en fait, son indépendance, mais le fait aussi qu'il aime bien que tout soit bien cadré, tu vois, il aime bien l'ordre social, en fait. Mm-hmm. C'est pour ça que les Jupitériens sont souvent dans la magistrature. On les retrouve en ministre, d'ailleurs, parce qu'ils aiment bien tout ce qui est cadré. Sauf que des fois, il a tendance à s'étaler et à sortir du cadre.
D'accord, bah justement, on a l'impression que le Sagittaire, c'est un petit peu Monsieur Parfait. Ou alors, il s'en approche. Quel va être son défaut ?
C'est Monsieur Parfait, mais à la base, c'est surtout le guide, si tu veux. Ou un peu le prophète. Ou sinon, ça peut être aussi Monsieur Tournesol. C'est le professeur. Mais du coup, son défaut, c'est qu'en fait, il croit qu'il n'existe qu'une seule vérité. Et comme il se croit volontiers sorti de la cuisse de Jupiter, il pense qu'il s'agit de la sienne.
Donc ?
Il poursuit sa quête, tu vois, il joue les nomades, les Indiana Jones, il voyage, il avance tout droit. Parce que pour lui, comme il y a une vérité, il n'y a qu'un seul chemin. Il a besoin d'expérimenter sa propre voix. Donc en fait, il écoute personne. Il ne sait pas écouter, le Sagittaire.
Donc, contrairement au lion, et ça me fait rire, donc lui, il est complètement dans l'autosuffisance.
Ah oui, complètement. Oui, oui, on est dans l'expansion du moi, parce que lui, c'est le troisième. Donc c'est un petit peu pire que tout, hein. C'est l'inflation du moi même. C'est Carl Jung qui dit ça, je trouve ça très drôle comme formule.
Donc il veut toujours avoir raison. Tu peux lui parler autant que tu veux, mais dans sa tête, il s'en contrefou de ce que tu racontes.
Ah oui, il est sûr de détenir la vérité. Et il pense que en fait, il y a que sa façon de voir, que sa façon de faire. Il est sûr que c'est le seul qui voit juste et comme il faut.
Ah, c'est très drôle.
Ah oui, oui.
Ah ouais, c'est très drôle.
En fait, il veut tout essayer dans l'idée qu'il s'est fait de la vie. Alors, c'est pour ça qu'il part à la conquête.
Moi, j'ai une question, quelque chose qui revient souvent avec les Sagittaires. L'engagement, qu'est-ce que ça t'inspire chez les Sagittaires ?
En fait, il est loyal, le Sagittaire. Il n'a pas un problème avec l'engagement. Son problème, c'est les limites. Et du coup, il croit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs.
D'accord, donc il va peut-être s'avancer dans un truc.
Enfin, il va plus que s'avancer même.
Ouais.
Parce que c'est un signe double.
D'accord, et après ?
Il s'adapte, il peut aller picorer ailleurs.
D'accord, et ça on peut le retrouver dans le professionnel.
Complètement, parce qu'il cherche, si tu veux, à aller au-delà de ce qu'il a. Parce qu'à partir du moment qu'il a quelque chose, lui il va aller au-delà. C'est un peu un superlatif, en fait. Il a besoin d'aller toujours plus, plus. Parce qu'on est dans la phase des signes de l'expansion. Mm-hmm. Donc ils ont besoin d'aller plus loin que les autres. Mais un jour, il comprend surtout que sa vérité, elle ne peut pas se fonder sur une croyance. Parce qu'à la base, en fait, le Sagittaire, il a des croyances. La mise en œuvre, c'est les croyances. Mais en fait, il comprend que la vérité, elle ne peut pas reposer sur des croyances. C'est seulement l'expérience qui permet l'apprentissage de la connaissance du monde. C'est là la subtilité du Sagittaire. C'est qu'il comprend que la vie, c'est pas d'aller au point B, mais que c'est justement le chemin, le vrai but de la vie. Donc le chemin qu'on parcourt du point A au point B. Et c'est lui qui permet de le comprendre. C'est pour ça que le Sagittaire, on l'assimile à cette maison neuve, qui sont les idéaux, les études supérieures, l'apprentissage, mais aussi la foi et la spiritualité.
C'est un truc de fou parce que ça me fait penser à ma copine, mais qui a son Mercure en Sagittaire. Et je retrouve un petit peu le côté, pas borné, mais disons qu'elle se fait ses idées propres. Et c'est seulement dans l'expérimentation et dans l'expérience qu'elle change son fusil d'épaule.
C'est ça.
Et qu'elle, finalement, agit autrement.
Complètement. Mais elle a des croyances.
Voilà.
Elle croit que ses croyances sont des vérités.
Mais elle croit, mais dur comme fer, quoi.
Et c'est en vivant l'expérience qu'elle se rend compte qu'en fait, ses croyances sont fausses.
Ouais, c'est ça. Bon, on va s'arrêter là pour le Sagittaire, parce qu'on rappelle quand même que c'est Monsieur ou Madame Parfaite. Et c'est bien assez. Je pense que vous avez de la chance, les Sagittaires. Quand vient l'hiver, vient le Capricorne.
Alors notre Capricorne, c'est le maître du zodiaque. C'est notre fameux leader. C'est le dernier signe de terre. Donc on est dans l'expansion, mais de la matérialisation et de la concrétisation en fait. Et donc ça veut dire quoi ? En fait, il incarne la maîtrise de soi sur l'instinct et la sensibilité. D'où le parfait contrôle de ses émotions, parce qu'il arrive à prendre une distance et qu'il a justement un certain sang-froid. Mais du coup, parfois, ça peut le rendre aussi aimable qu'une porte de prison ou aussi chaud qu'un iceberg, puisqu'on se retrouve au solstice d'hiver, donc la nuit la plus longue et la plus froide, d'où son tempérament glacial.
Ah ouais, le Capricorne, c'est keep your distance.
Mais faut pas se méprendre, parce que sous la banquise, c'est le volcan en éruption.
Ok, donc de quelle planète il vient le Capricorne, si c'est le maître du zodiaque ?
Il vient de Saturne. C'est la planète de la structure, de l'édifice et du temps, notre fameux Chronos. Et donc, c'est le symbole, si tu veux, d'un fin de cycle, puisqu'il s'agit de la dernière planète visible à l'œil nu, mais qui dit fin, dit début. Et donc, en fait, on parle du dépouillement à l'image des arbres en hiver. Tu vois, ils n'ont plus de feuilles. Ils se sont complètement dépouillés de leur verdure.
Ouais.
Et on ne distingue que le squelette, que la structure, en fait. C'est pour ça qu'on parle du Capricorne, qu'il est dans une quête d'authenticité, parce qu'il va garder que l'essentiel, que la structure, pour pouvoir ensuite faire son processus de maturation. Parce qu'en fait, lui, il va bosser pour planter la petite graine. Et la petite graine, elle arrive quand ? Au printemps ! Bélier !
Et quand tu dis que le Capricorne, il fait référence au squelette ou au tronc d'arbre, c'est le tronc d'arbre qui ne flanche pas.
Ah oui, c'est le support, c'est le rocher sur lequel tu peux t'appuyer. C'est vraiment la structure, c'est les bases, c'est les fondations, quoi. C'est le...
Et quand tu remarques que beaucoup de nos présidents sont Capricorne ?
C'est ça, c'est qu'ils ont développé en fait un ancrage et une solidité.
Et d'ailleurs, Macron, il est Sagittaire, lui, mais est-ce qu'il a du Capricorne ou du Saturne en lui ?
Il est ascendant Capricorne.
Ah bah voilà ! Alors, si le Capricorne a le don d'être notre structure à tous, et pour lui-même et pour les autres, quel est son grand défaut ?
Le problème du Capricorne, c'est qu'il croit que pour se réaliser, et puis pour surtout perdurer, parce que lui, il veut rester là longtemps,
ouais.
Bah, il croit qu'il faut travailler dur et qu'il faut produire un effort constant pour maintenir sa vie en place. Parce que lui, il a peur de perdre son statut. C'est ça, sa peur. Et donc lui, il va forcer. Tu vois, il va structurer, organiser, il va modéliser sa vie comme s'il s'agissait d'un business plan. Et donc du coup, bah, il en perd sa spontanéité et sa souplesse. D'où sa réputation de psychorigide ou du maniaque du contrôle. Car en fait, il en oublie de se laisser vivre. Et donc, à force, tu vois, bah, il devient épuisé. Et puis, il a le sentiment, en plus, de toujours donner plus sans jamais recevoir en retour. C'est pour ça que ça le rend un peu frustré, un peu aigri.
Qu'est-ce qu'on peut lui donner au Capricorne pour se détendre un peu ?
Ben, par du Prozac. Non, je rigole. Mais... non, mais il a un problème avec ça. Et puis, en plus, parallèlement, comme il est un peu lent, parce que c'est un signe de terre, à peine il a fini de bâtir quelque chose, que sa situation, ça devient un petit peu obsolète. Parce qu'en fait, le monde, il bouge, on est d'accord,
ouais,
il évolue.
Complètement.
Bah oui, des fois, il est un petit peu en train de retard.
Il est en décalage
donc,
un petit peu.
Bah c'est ça, et donc il modélise à nouveau, mais il se retrouve vite dépassé. Et en fait, lui, son obsession, c'est vraiment la quête de pérennité. Et d'ailleurs, il aimerait bien figer, lui, le temps, figer le cours du monde, tu vois. Mais il se rend, bien sûr, à l'évidence que, bah, on peut pas ni organiser et planifier toute une vie et contraindre les lois de la nature.
Est-ce qu'il est toujours en décalage, du coup ? Parce que s'il doit remodéliser à chaque fois, etc., qu'il a un train de retard, comment ça se passe ? Est-ce qu'il est toujours en décalage avec nous ?
Non, il n'est pas toujours en décalage, mais il peut être lent par moment, il peut être en décalage. Du coup, il doit refaire et refaire. C'est pour ça que ça le fait suer, c'est pour ça que le Capricorne a toujours l'impression de travailler toujours plus que les autres, en fait.
Et quand tu dis que le Capricorne peut manquer de spontanéité, justement parce qu'il a ce besoin de...
Ah ben, il force, ouais, il est rigide.
Voilà. Mais alors, du coup, est-ce qu'on peut avoir un moment de vérité avec le Capricorne ?
Ah, mais il est toujours dans une vérité.
Non, d'accord, mais je veux dire, dans un moment de vie simplement sans contrôle, en fait, c'est ça.
Ah ben, ça, c'est, ça dépend de lui. En fait, il faut qu'il comprenne, mais ça, un jour, il le comprend à force que le schéma se répète.
Ouais.
Tu vois, qu'il ne peut pas justement contraindre les lois de la nature, et puis que les êtres, c'est pas des Legos, quoi. Hein. Ça se démonte pas, c'est pas
ben,
des Legos.
C'est ça, en fait.
Donc, il doit lâcher prise et accepter cette part imprévisible, la spontanéité de la vie, et il faut qu'il apprenne à faire confiance en la vie. Il ne doit pas toujours tout contrôler.
Détends-toi, Capricorne, détends-toi.
Le bon point, c'est qu'il est responsable.
C'est le patron, c'est le grand patron.
Bah, disons qu'il est mature. En fait, il a acquis sa maturité par l'expérience, justement. Il a tellement sué qu'il sait exactement tout ce qui ne fonctionne pas.
T'es mature, toi, Chloé ?
Bah, arrivé à 40 ans, bientôt, je pense que je suis arrivée, oui, à la moitié du chemin. Mais oui, mature, oui. La particularité du Capricorne, c'est qu'il rajeunit avec l'âge.
Ouais, c'est vrai, t'as aucune raison.
Il se détend. Non, mais il se détend surtout. Il commence à développer la spontanéité, parce que tu m'aurais connu il y a 20 ans.
Ah ouais ?
Bah oui, c'était encore plus... Je sais que là, ça, tu trouves ça déjà pas mal, mais imagine avant, c'était encore plus rigide.
Plus coriace. Ah ouais, il faut y aller avec l'humain pour...
Même à 8, ouais, non.
Ah ouais. Et alors, dans quelle situation il ouvre son cœur, le Capricorne ?
Ah, c'est le cancer qui arrive bien, et ouais. Le poisson.
Parce que pas de jugement, dans l'émotion, dans la compassion, enfin...
Ils sont dans le don.
Voilà, exactement.
Ils sont dans le don.
Dans la compassion,
et
etc.
Et ils cassent les barrières.
Voilà, et donc
surtout
peut-être
le poisson.
Que le Capricorne a besoin de ça.
Mais d'ailleurs, petit rappel, tu sais que le Capricorne, il a une tête de chèvre, mais il a une queue de poisson.
C'est vrai ça, et tout le monde me demande pourquoi.
Bah, c'est parce que c'est sa spiritualité, il ne regarde que les montagnes, que les cimes des montagnes. Il veut toujours aller là-haut, lui. Là-haut, là-haut, là-haut.
Donc c'est une chèvre, mais qui finit dans l'eau, quoi.
C'est une chèvre qui finit dans... qui finit... bizarrement, il aime pas trop faire des queues de poisson. Mais il a une spiritualité. Parce que Saturne, tu vois, c'est la limite entre le monde immatériel et le monde matériel.
Donc le monde du visible et de l'invisible aussi.
Exactement.
Donc là, on va passer peut-être au maître de la spiritualité et de l'astrologie. C'est le Verseau. C'est un signe particulier, hein. C'est un signe bizarre, mambo.
Oui, ça pour dire bizarre, c'est vraiment le mot.
Mais pas beau.
Ah si. D'ailleurs, très joli trait, les Verseaux en général. Mais effectivement, ils ont toujours ce côté un peu bizarre. C'est l'ovni un peu.
Ouais, complètement. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire du Verseau?
Alors, notre ami Verseau, c'est le dernier signe d'air. Et il a la particularité d'être un signe collectif, comme le poisson qu'on va voir après.
Ça veut dire quoi, collectif?
Ça veut dire qu'on se soucie plus des autres que de soi. Et du coup, là, comme c'est le dernier signe d'air, on est dans l'expansion de la pensée. Puisque l'air, c'est la pensée. Et comme c'est le dernier et le troisième, on est dans l'expansion. Et notre Verseau, il a ce sens de la solidarité. D'ailleurs, la phrase « liberté, égalité, fraternité », c'est parfait pour lui. Parce que lui, il prône le « un pour tous », à l'inverse du lion en face, qui prône le « tous pour un ». Donc il a cette capacité, notre Verseau, de s'abstraire et de sacrifier ses intérêts personnels et de se détacher de soi. Vraiment, il a, si tu veux, comme une perfection morale avec un but désintéressé, d'où son côté altruiste. Parce qu'il a vraiment un dévouement social et une quête d'ailleurs complètement idéologique, certes, du monde meilleur. Il aspire à un monde meilleur, très fraternel, très uni. Il veut aider les autres en fait à se libérer d'eux-mêmes. C'est ça son leitmotiv.
Tu parles toujours d'individualité avec le Verseau. Il prône le côté unique en chacun.
Alors, exactement.
Au sein du collectif.
Exactement. Ça, c'est grâce à sa planète. En fait, il vient de deux planètes. Il vient à la fois de Saturne et d'Uranus. Et en fait, Uranus, c'est la planète de l'émancipation. De l'anticipation aussi, mais c'est le réformateur. Et lui, il remet en question, si tu veux, les traditions ou les fondations, par exemple, que Saturne a fait juste avant, le Capricorne. Et donc, il recherche toujours l'inédit. Donc, lui, il veut toujours changer, transformer aussi. D'où sa réputation d'anticonformiste, d'ailleurs. Parce qu'il a ce besoin de changement. Et c'est ça qui le rend aussi un peu imprévisible et versatile. Parce que du coup, il s'adapte. Et si tu veux, c'est un peu le caméléon, en fait.
C'est vrai qu'on n'arrive pas toujours à le cerner.
Ah non.
En fait, dans le sens où le Verseau, il va s'exprimer par ses idées, par ses idéaux, d'ailleurs. Mais au fond, il est assez pas palpable.
Pour reprendre ce que tu dis, on est dans l'idéologie, le Verseau. Uranus, c'est l'octave supérieure de Mercure. Et donc, Mercure, c'est l'intellect. Donc, Uranus, c'est l'intellect plus.
OK.
Et du coup, ça lui donne une intuition psychique, une conscience intuitive, en fait. Et d'ailleurs, l'autre fois, tu disais, le Verseau, il a des fulgurances. C'est vraiment ça. Il a des flashs de l'esprit. Et c'est vraiment son intelligence. Et par exemple, si on compare aux Gémeaux, le Gémeaux, c'est la communication de l'esprit. La Balance, c'est le dialogue du cœur. Le Verseau, c'est le monde des affinités sélectives.
Tu les as comparés aux Gémeaux et à la Balance
parce que
ce sont des signes d'air.
Exactement. Hein,
comme le Verseau. Alors, je reprends un petit peu tous les clichés qu'on entend. Hein. Pourquoi le Verseau ressent un petit peu ce côté unique? On dirait qu'il fait partie de la matrice et que tous les autres font partie de l'expérience humaine et lui se sent un peu... C'est le logiciel, lui. Pourquoi?
Alors, en fait, ça vient de son unicité qu'il a développée. Mais au début, il ne l'avait pas.
Ouais.
Et en fait, c'est ça. C'est le problème majeur du Verseau. Il croit qu'il faut tout partager. Parce que tu vois, il est dans liberté, égalité, fraternité.
Ouais.
Et donc lui, il croit qu'il faut tout partager à 50-50.
C'est un communiste.
Il est... Non, pas communiste. Il veut tout partager à 50-50. En fait, sans se préoccuper vraiment, si tu veux, de la demande réelle des besoins. Tu vois,
d'accord,
de chacun.
Ok.
Et si tu veux, c'est comme en fait une sécurité un peu solidaire. Mais il se rend compte un jour ou l'autre qu'il est complètement dans l'utopie. Il est complètement surréaliste.
Mais c'est marrant parce que c'est pas égocentrique, c'est bienveillant de vouloir tout partager. Mais il y a un côté où on ne voit pas les besoins des autres, mais on estime ce qui est bien pour les autres, en fait.
Exactement. Alors, il estime ce qui est bien pour les autres. Enfin, ou du moins, il identifie ça comme il pense.
Ouais.
Et il partage tout ce qu'il a à 50-50. Sauf qu'un jour, en face, tout le monde n'est pas comme lui. Mm-hmm. Les gens, ils partagent pas tout à 50-50. Et donc, du coup, il a rien en retour.
Et donc, du coup, comment il réagit?
Là, très très mal. Et là, il sème le chaos. C'est là le côté révolutionnaire.
D'accord.
C'est là où, justement, il ne faut pas croiser sa route. Parce que vraiment...
Et là, c'est la tornade Uranus.
Ah ben, c'est ça. C'est la tornade. C'est les vents violents, incontrôlables, le rebelle, le contestataire, l'anarchique, celui qui dévaste tout. Parce qu'il ressent ça comme une profonde injustice, si tu veux. Il trouve que, du coup, les valeurs morales sont bien basses par rapport aux autres. C'est pour ça qu'il a l'impression d'être au-dessus.
C'est ça.
Se sépare du commun des mortels, quoi. Le problème, c'est qu'à force de prendre de la hauteur, il a du mal à redescendre.
Exactement. Et pourtant, c'est un signe très altruiste. Ça n'enlève pas. Ça n'enlève pas la chose.
Non, évidemment. Mais, et c'est ça, en fait, c'est qu'il a l'impression, en fait, de se faire avoir, parce qu'il se retrouve toujours à tout partager, mais que ce qu'il a. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il comprend? Ben, il comprend qu'il doit se recentrer sur ses besoins. Et donc, c'est là qu'il comprend que chacun a des besoins différents par, justement, la situation qu'il a rencontrée. Et donc, que chacun a une unicité singulière. Que du coup, il ne faut pas anticiper les besoins des autres en fonction des siens, mais plutôt écouter les besoins de chacun.
Un autre truc aussi que j'ai remarqué chez les Verseaux, ascendant Verseau aussi, et peut-être même Mercure en Verseau, je ne sais pas, mais c'est qu'ils parlent beaucoup. C'est des pipelettes du zodiaque. Vrai ou faux?
Pipelette, ça dépend en fait. Pipelette, c'est surtout, par exemple, si tu parles de moi.
Ah non, je parle pas du tout de toi.
Tu as un Mercure en Verseau.
Et non, je ne parle pas de toi en plus, mais c'est vrai.
Mais je suis une pipelette parce que moi j'ai un carré Jupiter. Et Jupiter, c'est l'expansion. Donc c'est vrai que je m'arrête pas, je peux parler pendant des heures. C'est plus Jupiter qui va amplifier, qui va donner ce côté pipelette.
J'ai trois Verseaux en Soleil, Verseau et Ascendant. Pipelette, pipelette, pipelette.
Pipelette, donc il faut vérifier Mercure.
Ouais.
Et donc, du coup, il faut que tu regardes les aspects à Mercure.
Ok.
Et c'est ça qui va te donner la réponse.
Ok, marrant. Et alors, dernière question, pourquoi le Verseau, c'est le signe de l'astrologie, puisqu'on en parle?
Le Verseau, il a la particularité, d'ailleurs, il ne sait pas pourquoi, mais il sait. Il sait, il a quand même une espèce de petit pouvoir prophétique. D'ailleurs, souvent... Bon, après, il faut des cas particuliers, des aspects particuliers, des positionnements de planètes particuliers, mais on retrouve souvent Uranus en aspect à Mercure pour les génies. Parce qu'ils savent, en fait, ils ont une intuition, ils ont une intelligence intuitive qui les amène au bon endroit. Et si tu veux, ils ont un côté visionnaire et ils sont orientés vers le futur. Et du coup, ils adorent tout ce qui est nouvelle technologie. Et par rapport à l'astro, pourquoi c'est la planète de l'astrologie? Parce qu'en fait, le Verseau, il sait décrypter le symbole. Il arrive à décrypter le symbole.
D'accord.
En fait, le Verseau, justement, par son côté altruiste, c'est pour ça qu'on les assimile à la maison 11, qui parle des projets collectifs.
Ça me fait rebondir aussi sur le sigle du Verseau. Bah, est-ce que tu peux nous l'expliquer, le symbole du Verseau?
Ben oui, c'est un signe d'air. Mais en fait, quand on regarde son symbole, ben en fait, il verse de l'eau dans une urne. C'est l'eau de la connaissance. C'est pour ça qu'il a justement cette intelligence intuitive. Parce que l'intuition, c'est relié à l'élément eau.
Excellent. Et on passe au dernier signe du zodiaque pour que la boucle soit bouclée. C'est notre fameux petit poisson.
Notre petit poisson, dernier signe d'eau et aussi signe collectif. Mais là, on va voir, c'est différent. Donc là, on est dans l'expansion des liens. Les liens, parce que c'est un signe d'eau. L'expansion, parce que c'est le dernier. Et donc, il incarne en fait la sensibilité universelle. Donc lui, il est en quête d'amour inconditionnel. Il a beaucoup de compassion et il a, si tu veux, cette capacité de ressentir toutes les ambiances, les états émotionnels des autres, comme une éponge, comme un papier buvard. Sauf que, à la différence du scorpion, il ne s'attache pas, alors que le scorpion s'attache. Et à la différence du cancer, qui lui est sensible uniquement à son cercle d'intime, bah lui, le poisson, il est sensible à tout le monde.
Et tu viens de le comparer au signe du scorpion et au signe du cancer parce que ce sont comme lui des signes d'eau.
En fait, le poisson, si tu veux, il est impersonnel, alors que le cancer, il est personnel.
Le poisson, c'est un signe, du coup, empathique.
Exactement.
S'il ressent tout.
Ah bah oui, il a une nature complètement impressionnable. C'est vraiment, il imprime. C'est comme l'éponge ou le papier buvard. Il absorbe tout.
Ça crée un effet miroir pour celui qui est en face de lui?
Complètement. Ça crée un effet miroir parce que, justement... Il a, si tu veux, la capacité d'absorber les traits ou les caractéristiques de l'autre. Il se confond dans l'autre.
Est-ce que c'est parce qu'il ressent tout ça que ça le rend très créatif?
Alors, la créativité, c'est par rapport surtout à son élément eau. Mm-hmm. Mais oui, il a, c'est surtout, oui, sa sensibilité, son hypersensibilité, je dirais, qui lui donne ce talent de créativité. Il a un talent artistique très développé. Mais notre poisson, il a surtout un côté mystique, spirituel. Il va aller au-delà, en fait. Il cherche quelque chose de plus grand que lui. C'est souvent ce qui fait les religieux, ou le prophète, ou le sage, par exemple. Parce que lui, il a la foi. Tu vois, la différence, c'est qu'il a vraiment la foi, il croit. Et il cherche l'ouverture de conscience. Il cherche toujours à être en communion avec son entourage. Et du coup, bah, ça peut développer chez lui des dons de clairvoyance, de télépathie, de médiumnité. Parce qu'il a une intuition très, très, très forte.
De quelle planète il vient ?
Notre poisson, il vient de Neptune. C'est la planète de la spiritualité, de l'imaginaire, de l'inspiration.
Des rêves.
Exactement, des rêves. Et les eaux, c'est un peu celle de l'océan. Donc, si tu veux, c'est l'infini, l'insondable. C'est le monde de l'indéfini, du coup, le poisson. Et donc, de l'indifférencié, tellement que c'est grand. Et en fait, Neptune, ça favorise la dissolution des limites. Alors, quand tu sais qu'il y a à la fois Neptune et à la fois Jupiter qui amplifie, bah, il déborde, quoi. Il déborde de lui-même pour se confondre avec la personnalité qu'il vient de rencontrer en face. D'où...
Pouvoir illimité, ça te parle ?
Ah oui, pouvoir illimité, ça me parle, oui, complètement. Là, c'est amplifié, diffusé...
Tout est possible ?
Oui, bah pour le poisson, tout est possible. Le champ des possibles, complètement.
Est-ce que le poisson, il a peur d'être incompris ? Parce que comme on le relie à l'artistique, à la créativité...
Alors, le poisson, il a peur surtout de la confrontation. C'est pour ça qu'il fuit. D'ailleurs, le poisson, quand tu l'affrontes, il fuit, il s'en va. Parce qu'il n'aime pas ça, c'est parce qu'il recherche, lui, il cherche à s'unir. Donc si toi, tu vas le confronter, forcément, il va fuir. Au-delà de la peur, oui, il est souvent incompris. En fait, c'est le signe le plus incompris du zodiaque.
Et pourquoi ?
Parce que c'est le signe le plus compliqué à comprendre.
Ouais.
Parce que justement, à force de se confondre avec la personnalité qu'il vient de rencontrer, parce qu'en fait, il cherche à s'identifier à quelque chose de plus grand que lui, quelque chose qui le dépasse, bah, il en devient influençable. Et du coup, bah, on n'arrive pas trop à le cerner. Et parce qu'en fait, son problème, c'est qu'il pense que tout le monde ressent comme lui. Ce sentiment, si tu veux, d'unité, ce lien là, universel qui nous relie, tu vois, le fait que ça fait un tout, c'est surtout lui qui en a conscience. Et donc lui, si tu veux, il a une difficulté de faire la distinction de ses émotions à lui et de celles des autres. Donc en fait, il a un total manque de discernement sur le vécu des autres. Et c'est pour ça qu'on dit souvent le poisson, c'est le flou artistique. Parce qu'il est imprécis, il est indécis souvent, et il est indéterminé dans ses choix. Parce qu'en fait, il n'arrive pas bien à les définir. Il n'arrive pas à faire la part des choses, si tu veux.
Alors justement, au contraire de la Vierge qui a un excellent discernement, comment on peut aider le poisson ? Parce qu'en fait, on nous demande de changer aussi notre nature hein, pour aller à l'encontre de qui l'on est, dans le sens où le poisson, il est dans l'émotionnel. Comment est-ce qu'il va pouvoir se détacher de ses émotions, justement, pour augmenter son discernement ?
Eh bien, justement,
c'est ça le conseil qu'on lui donne, finalement.
Ah ben, complètement. En fait, notre ami poisson, comme il a une grande ouverture de cœur, bah, il a tendance à être naïf. Et donc, il a tendance à faire confiance de façon excessive. Et du coup, il donne sans compter. C'est un peu, si tu veux, le monde des bisounours, tu vois. Puis un jour, il tombe des nues, puis il se sent trahi, parce qu'il se rend compte que les autres, ils ont une vision beaucoup plus étriquée que la sienne. Mais un jour, il comprend bah, que la conscience spirituelle, eh bah, elle ne peut pas se transmettre par la parole ou par le don de soi. Ou par le sacrifice, en fait. Il ne peut pas sauver le monde. Probablement que la Vierge va l'aider. Hein. Bah donc déjà, il apprend à discerner, puis il accepte l'idée que chacun fasse son chemin.
C'est ça.
Et que, en fait, la prise de...
Tu peux pas être Mère Teresa pour tout le monde.
Ah bah exactement. Et c'est, cette prise de conscience, en fait, il sait que ça doit se faire par soi-même, qu'on doit se relier à son essence, et que, eh bah, que l'amour, il se trouve à l'intérieur de soi. Parce que Neptune, c'est quoi ? C'est l'octave supérieure de Vénus. C'est l'amour universel.
L'amour inconditionnel.
Exactement.
Alors, on parle du côté peut-être influençable du poisson, mais parce que c'est vrai qu'il ressent tout à 10 000, donc c'est dans sa nature hein, d'être une éponge, d'être dans l'émotionnel. Mais finalement, c'est aussi ce qui fait sa plus grande force. Chloé, c'est quoi sa force au poisson ?
Il absorbe tellement le collectif, donc par exemple son public. Il y a beaucoup d'artistes qui ont un Neptune très très fort, qui savent exactement quoi répondre à leur public, au niveau artistique. En fait, il arrive, si tu veux, à créer des œuvres qui sont multidimensionnelles.
C'est quelqu'un d'inspirant ?
Exactement. C'est quelqu'un qui éclaire, c'est quelqu'un qui inspire.
C'est-à-dire qu'autant qu'il rêve, il donne à rêver ?
Exactement.
Bon, bah ça, je pense que c'est...
Très ce joliment dit.
Oui, voilà, c'est ce qu'il faut retenir du poisson. Parce que c'est vrai qu'on l'imagine dans sa bulle, peut-être incompris, etc. Mais il a une force incroyable d'être lié inconditionnellement aux autres. Oscar Wilde disait « S'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie ». On dit aussi que tout ce qui en vaut la peine prend du temps. alors c'est ok de prendre du temps pour se regarder vraiment, se découvrir, s'accepter, être indulgent. C'est ok d'évoluer, de changer, de se découvrir autrement. Ça prend du temps d'être capable de rire de soi, autant de temps pour connaître sa valeur. Accepter que nous sommes différents, tout simplement car nous ne venons pas de la même planète. Stellar est un podcast énergie. Il est présenté, et c'est un honneur par moi, Jenny Finkelstein, fondatrice du média Sisters Astro, avec moi en studio l'astrologue Chloé Zetoun. Ce podcast a été pensé et écrit par Chloé. À la rédaction en chef, Maud Ventura. À la production et à la réalisation, Jean-Philippe Amar et Florian Lacaille. Retrouvez tous les épisodes sur le site de Énergie rubrique podcast et sur toutes vos applications d'écoute préférées. On attend vos commentaires et toutes vos étoiles sur Apple Podcast. J'ai hâte de vous lire.